Bonsoir pour ce podcast numéro 3 des hors-séries sur les différents atomes de jeu de Monsieur Thomas Munier qui nous fait le plaisir de nous proposer ces podcasts.
Bonsoir.
Alors ce soir, on est donc avec Thomas. Salut Thomas.
Salut.
Avec Xavier. Salut Xavier.
Bonsoir.
Et avec Pierre.
Bonsoir Julien.
Alors je vais vous laisser vous présenter et finalement moi je vais me taire pour vous laisser la parole. Puisque bien c'est Xavier qui va prendre un petit peu la tête des Voix d'Altari ce soir pour gérer ce podcast. Et c'est Thomas qui nous a fondu un plan assez...
Ambitieux.
Assez charnu. Voilà.
Assez voilà. Charnu, aidé, si j'ai bien suivi, de Pierre qui a apporté un certain nombre d'addendas sur le sujet. Ok, eh bien, très bon podcast à vous, et moi j'arrête de parler tout de suite.
Tu retournes tirer les ficelles dans l'ombre.
Voilà, j'espère quand même que tu ne feras pas ton timide et que tu viendras apporter de temps en temps ta pierre à l'édifice.
Je ne suis pas d'accord avec toi, Xavier.
Mais comme d'hab, sinon on serait chier dans ce podcast. Est-ce qu'on te présente encore, Thomas ?
Bon, on peut le faire en une ligne, quoi, si tu veux.
En une ligne.
D'accord. Ouais, voilà. Ouais. Donc, je suis auteur de jeux de rôle. Hein. Il y a les jeux de rôle dans l'univers forestier de Milvaux, d'un côté, et puis aussi des jeux de rôle plutôt dans un univers onirique contemporain, comme Dragonflame Hotel ou S'échapper des faubourgs. Et puis, j'ai aussi un blog où je centralise tout ça et je parle aussi pas mal de créativité. Donc, un blog qui s'appelle Outsider. Vous pouvez trouver sur outsider.rollpod.net.
Alors, voilà. Moi, je vais... Ouais. Je vais compléter un petit peu ta présentation. Moi, je tiens à dire que je suis très content de faire ce podcast avec toi, parce que même si je ne joue pas assez à tes jeux, je suis vraiment fan de ton travail et de ce que tu fais. Et je trouve que parmi les auteurs indépendants, tu es vraiment quelqu'un qui défriche les terres inexplorées du jeu de rôle. Et
je tombe sur des ronces, hein, je trouve.
ouais, mais moi je trouve ça formidable. Et je sais pas si on parle assez de toi et de ta création sur les Voies d'Altaride, mais en tout cas je suis très content que ces hors-séries te soient consacrées et que tu puisses venir nous parler un petit peu de ta vision du jeu de rôle, quoi.
Bah merci. Ouais. En tout cas je suis content de votre accueil, très content.
Donc après cette débauche de fleurs, peut-être qu'on va laisser le micro à Pierre.
Donc ouais, bonsoir peuple rôliste. Donc je m'appelle Pierre, moi je suis un joueur de jeux de rôle depuis entre 20 et 30 ans. Je fais pas trop le compte. En sachant que ce soir je vais prendre la posture du joueur tacticien décomplexé le plus possible. Après voilà, donc je joue à plein de jeux et j'ai joué à plein de jeux sur la période. Vu que je publie rien, que je participe très très peu à la vie publique rôliste, j'ai pas réellement beaucoup de choses à raconter pour me présenter au-delà de ça.
Mais moi je pense qu'il n'y a pas de complexe à faire et à avoir. C'est un vieux débat que j'ai en off avec Julien et les gens des Voix d'Altaride. J'ai tendance à penser que dans le milieu du jeu de rôle, on laisse trop la parole aux auteurs et que peut-être que justement des gens comme toi, Pierre, qui sont joueurs depuis longtemps, c'est bien aussi d'écouter leurs pratiques, leurs goûts, leurs attentes. Et donc je suis très content aussi que tu sois parmi nous, même si... Enfin, c'est ça qui est sympa aussi au Voile d'Altaride, il n'y a pas besoin d'avoir un pédigré de dingue pour faire partie de l'aventure. Donc bah moi ce soir, Xavier, je suis votre hôte, j'interviens régulièrement sur les Voies d'Altaride, je suis un joueur de longue date aussi, j'ai commencé à l'âge de 10 ans avec la petite boîte rouge de Donjons et Dragons, donc souvent dans les Voies d'Altaride, je suis un petit peu le fan de crunch, c'est-à-dire de règles un peu lourdingues, toujours à râler contre le fluff, c'est-à-dire le côté un peu esthétique, BG excessif, etc. Et je suis très content d'avoir réussi les sélections pour être parmi vous pour parler des jeux tactiques ce soir. Et c'est Thomas, je crois, qui nous annonce le plan.
Ouais. Alors on avait prévu de raconter pourquoi le sujet nous intéressait ou nous paraissait pertinent. Alors moi je voulais juste préciser, hein, parce que à part Milvaux Sombre, un supplément que j'ai fait hein, pour le jeu de rôle sombre, et puis Grogne qui est en développement, j'ai quand même pas publié énormément de choses qui se rapporteraient au jeu tactique. Hein. Mais ceci dit, ça fait comment sur je suis comme Pierre, hein, j'ai 25 ans de pratique environ quoi, et sur cette durée, ça je totalise à peu près 2/3 de jeux de rôle tactique quoi. J'ai fait pas mal d'HeroQuest, Warhammer Quest, mais vraiment sous un angle tactique justement. Après, je suis passé au DK et à Sombre que j'ai pas mal fait jouer aussi sous un angle très tactique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une façon, ce podcast, c'est une façon de revenir à des vieilles amours.
Aux fondamentaux, en somme. On peut le dire, hein, de toute façon, c'est un petit peu par le jeu tactique que le jeu de rôle tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'est construit historiquement.
Ouais, bien sûr. Après, j'imagine que dès les premières années, on peut trouver des variations, hein, des choses très esthétiques comme Tekumel, par exemple, ça arrive très vite. Mais effectivement, bon, si on prend la boîte rouge, les origines wargame du jeu de rôle, on peut se dire qu'on a quand même déjà une prédominance tactique, quoi, au départ.
Donc le premier point, c'était, tu disais, voilà, pourquoi ça nous intéresse le jeu tactique, hein, c'est
Ouais,
ça?
voilà, ouais.
D'accord. Bon, on commence par notre outsider. Alors, Pierre, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, toi?
Alors moi en fait ce qui m'interpelle par rapport au jeu tactique c'est que alors c'est cette notion elle est apparue dans mon esprit quand j'ai commencé à entendre parler du modèle GNS parce que le gamisme je crois que c'est le terme
Oui, en anglais en français. Ouais.
je trouvais que c'était une
Ludisme en
grille
français, ouais.
je trouvais que c'est une grille de lecture qui était intéressante pour analyser les souhaits de chacun des joueurs quand on visait la perception qu'on avait. C'est que c'était aussi pris des fois comme une lecture qui était excluante ou clivante. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand tu faisais du jeu esthétique, tu faisais pas du
C'est le
jeu
propos de la
tactique.
GNS,
Et
effectivement.
donc au final, en fait, moi, pour ce qui est d'analyser les aspirations des joueurs, ça me pose pas de problème. Pour ce qui est d'analyser le fonctionnement d'un jeu, moi, je trouve que je crois pas tant que ça à ça. Et moi, l'intérêt que j'ai ce soir, c'est de confronter ma croyance. Qui est que, en fait, au final, du jeu tactique, il y en a partout. Et que la seule question, c'est finalement à quel point, jusqu'où on veut aller pour le servir, et à quel point on veut en mettre le plus possible à tous les niveaux.
Ok.
Et donc, sérieusement, ce soir, pour moi, ce que j'attends avant tout de notre discussion, c'est de pouvoir discuter de c'est ma croyance, et voir à quel point je me trompe, ou à quel point ça peut se confirmer ou pas.
Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Pierre. J'ai tendance enfin voilà, il m'arrive de troller sur certains forums en expliquant que en dehors du PMT, il n'y a point de salut, puisque PMT pour porte monstre trésor, qui est la caricature du jeu tactique. Mais porte, ça figure un déplacement, monstre, ça figure une adversité, trésor, ça figure une récompense. Et donc j'argumente en expliquant que bah voilà, si il y a aucun déplacement, qu'on bouge pas, s'il n'y a aucune adversité et s'il n'y a aucune récompense, eh bien in fine, pour moi, il n'y a pas d'histoire. Alors c'est excessif, hein, je veux dire, mais ça me fait bien bien rigoler, moi, de défendre cette position. Un petit commentaire, Thomas, peut-être.
Non, non, c'est intéressant et tu vas voir qu'on va un peu décortiquer ça justement tout au long de ce plan. Peut-être qu'on pourrait enchaîner directement avec la définition du jeu de rôle technique. Alors, je vais donner la mienne avec toute l'humilité que ça implique, hein, c'est-à-dire que de toute façon, vous allez pouvoir la discuter allègrement. Pour moi, le jeu de rôle tactique, c'est quand il y a une autorité. L'autorité, ça peut être le jeu, le scénario ou le MJ. Bon, quand il y en a, hein, parce que... propose un objectif au personnage, je dis bien au personnage. Alors j'ai par exemple, ça peut être voler un diamant, nettoyer un donjon, créer une rose pour l'empereur, trouver la pierre philosophale, séduire une personne. Ou alors ce sont les personnages qui s'assignent eux-mêmes un objectif. Par exemple, tuer tous les monstres du bestiaire. La fameuse anecdote avec ceux qui demandaient un Deities and Demigods 2 parce qu'ils avaient tué déjà tous ceux qu'il y avait dans le premier. Créer un fief, atteindre une classe de prestige. Tu sais, quand on jouait à D&D 3.5, vraiment les premières séances, elles étaient arquées vers cet objectif-là. Et donc une fois qu'on a défini ces objectifs, les joueurs se proposent de s'efforcer de remporter cet objectif. Et si jamais l'objectif s'avère compromis définitivement, ou alors qu'il s'avère daubé, par exemple, on vous file une mission, mais ben en fait c'est une mission suicide, les joueuses doivent s'efforcer de faire rebondir leur personnage, soit par la fuite, soit en se définissant un nouvel objectif, soit en changeant d'allégeance. Bon, trois petits points, quoi. Et donc cette vision du jeu tactique, elle est en lien avec ce que Nicole Lazzaro appelle le hard fun. Dans sa définition des quatre fun du jeu, les quatre plaisirs du jeu. Donc le hard fun, on va dire, c'est une sorte de plaisir dans la difficulté. Comme synonyme, elle donne aussi le fiero. C'est alors fiero, c'est la fierté de gagner, quoi, tout simplement, quoi. Et donc pour conclure, pour moi, ce que le jeu tactique demande aux joueuses, c'est à la fois analyser des données, bon, des données du coup narratives et aussi un peu techniques, enfin analyser une situation fictive et optimiser justement à partir d'une situation donnée, elles vont essayer d'optimiser leur situation, quoi. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à cette définition?
Bah
Pierre?
écoute Thomas, oui, j'ai un premier commentaire dans le sens où j'aime bien cette définition d'objectif à travailler. Après, je serais tenté de vouloir l'enrichir en disant que il y a c'est soit des objectifs d'une autorité, soit des objectifs des personnages, soit aussi des objectifs qui viennent des joueurs. Parce que pour moi, il y a aussi plusieurs fois où c'est le joueur lui-même qui va se dire je veux que mon personnage et le plus gros DPR. DPR, c'est pour Damage per Round, donc en fait le nombre de points de dégâts qu'il met par round de combat, ou alors que ce soit le plus beau diplomate, ou alors que ce soit celui qui ait un temps de parole dans telle ou telle séquence, ou que son personnage séduise la barmaid. Dans tous les cas, en fait, c'est pas un objectif qui est inscrit en dur sur le personnage, mais qui lui est plutôt assigné par le joueur qui le joue, et il va aussi avoir cet objectif-là, et son optimisation va avoir un effet dans le jeu.
Mais dans
Donc
l'absolu, ça peut
pour moi,
ressembler
ça
quand
fait
même à un
partie aussi de la
objectif de
formule.
personnage. Enfin, en tout cas, les exemples que tu me donnes. C'est un petit.
Je dirais que, alors là-dessus, je vais voir si je rebondirai plus tard là-dessus, mais j'ai quand même dans ma perception des fois qu'il y a des objectifs qui sont vraiment liés à la personne et au joueur.
Ouais.
Et en plus, qui sont relatifs aux joueurs versus les autres joueurs, pas forcément le
C'est-à-dire que
personnage joueur
grosso
versus
modo,
son
c'est un
objectif.
objectif dont le personnage lui-même n'aurait pas conscience, quoi, si on veut aller jusque-là, quoi.
Ou qu'il n'aurait pas de justification interne dans sa
Ouais.
propre cohérence pour cet
Ok.
objectif.
Ok.
Ouais, moi,
Et
je
là,
crois que
pour moi,
le premier barbare qui se balade pour essayer de récupérer une Vorpal plus 5, il n'a pas vraiment de trait de caractère qui montre, qui est écrit noir sur blanc, que c'est quelqu'un qui veut absolument être tout puissant.
D'accord.
Moi, je crois que ce que je retiens surtout de ta définition du jeu tactique, c'est que quelque part, il y a des objectifs de victoire qui sont clairs, en fait. Tu vois, c'est surtout à mettre en perspective des autres
Ou
propositions.
s'ils sont, oui, s'ils peuvent être flous, mais dans ces cas-là, ça va être les joueuses qui vont être sommées de s'en définir.
Oui.
Je balance dans un gros bac à sable. Moi, en tant que MJ, je te donne aucun objectif, mais du coup, quelque part, je vais attendre de toi, joueuse, que tu en trouves des objectifs, quoi.
Bah c'est ce que fait Oltre, hein. Je veux dire, Oltre, c'est le jeu où on te demande de définir un objectif qui sera une espèce de pierre d'angle, et si on l'atteint, on gagne tous un niveau. Et Oltre, c'est un gros jeu de bac à sable, et donc les objectifs sont définis par les joueurs régulièrement pour la progression de leur personnage. On est vraiment là-dessus. Mais pour moi, dans le jeu tactique, il y a régulièrement des conditions sans doute intermédiaires de victoire.
Tout à fait, ouais.
Ce que je retrouve pas dans le jeu esthétique ou dans le jeu moral, quoi. Il n'y a pas de moment où on dit, tiens, bah là, voilà, on a atteint, ou on veut atteindre. Voilà. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, on va être obligé d'exploiter le système de jeu, le système de résolution, et de se confronter généralement à une adversité qui va s'opposer à la résolution de cet objectif, quoi.
Ouais. Alors dans le jeu moral, il peut y avoir des objectifs de personnages qui soient forts et balisables, mais ils sont pas récompensés par de l'expérience. C'est des choses qui sont différentes. Mais je pense que là, on abordera ça justement cette question-là dans le podcast moral, quoi.
Et en plus, par contre, là, je reviens un tout petit peu en arrière, je suis plus que d'accord avec vous sur les objectifs qui sont exprimés, font partie du jeu tactique. Et pour moi, souvent aussi, je dirais que le risque du jeu tactique, c'est quand il y a des objectifs qui ne sont pas exprimés ou mal exprimés. Dans le sens où si moi j'optimise un objectif dont vous n'avez pas conscience, à un moment je risque de vous agacer parce que je joue pour moi quelque part plutôt que de jouer pour que la partie soit bonne pour tout le monde.
Ouais, tout à fait,
Mais
ouais.
Ça peut se retrouver dans toutes les propositions, quoi. Je veux dire, le joueur qui joue pour lui, qui joue uniquement pour son immersion personnelle, elle peut se retrouver partout, quoi. Le jeu tactique, moi je pense que effectivement c'est l'endroit roi pour le jeu coopératif, mais c'est aussi, enfin, le jeu coopératif, ce serait bien qu'il déborde sur les autres propositions. Je veux dire, quand tu es dans des positions de recherche morale, c'est encore mieux quand les autres joueurs à la table te renforcent dans ta recherche et dans ta démarche, soit en s'y opposant, soit en la validant et en la propulsant. Et donc, effectivement, quand on pense coopératif, on pense facilement ça dans un contexte tactique, mais moi j'aimerais bien, enfin, j'aime à mes tables que ça déborde sur les autres propositions quand elles émergent.
Ensuite, je crois que Pierre, tu voulais parler comment tu, pour toi il y avait un jeu tactique dans le jeu, c'est-à-dire dans l'aventure, dans la diégèse. Alors le diégèse, terme atroce, mais grosso modo la diégèse c'est dans la fiction, quoi. Alors on pourrait discuter est-ce qu'il y a une fiction ou pas en jeu de rôle, mais diégèse j'aime bien parce que c'est vraiment la fiction en mouvement, quoi. Hein, c'est la fiction rôliste, on va dire, quoi. Et donc pour toi, donc il y a du jeu tactique dans le jeu et dans le métajeu. Alors, j'aurais bien voulu que tu développes, parce que j'avais pas forcément compris là où tu voulais en venir.
En fait, c'est la continuité déjà de ce qu'on disait, dans le sens où pour moi, il y a un jeu tactique qui est porté déjà par les règles exprimées dans le jeu. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel jeu avec des règles de combat, d'interaction sociale, de négociation, de séduction, quelle que soit la règle, une fois qu'il y a une règle, elle définit intrinsèquement un objectif explicite qui est formalisé justement dans la règle. Et à partir de là,
Ouais,
il y a
déjà,
un jeu
pardon,
tactique
la
naturel
liste
qui
de
est
compétences, ça
maximisé
donne
ou pas la chose.
le défi à relever, c'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est ça. Et après, pour moi, ce qui est en méta-jeu, c'est tout ce qui va être autour des règles exprimées dans le cadre du jeu. C'est les règles qui peuvent être non exprimées, les règles implicites. Ça peut être aussi justement les règles sociales du groupe autour de la table. Et toutes ces choses-là qui font que peut-être que tu as envie d'être celui qui. Le joueur en fait qui est le plus crédible ou le plus roleplay, ou tu veux peut-être être aussi le meilleur diplomate quand il s'agira de négocier au sein de la partie. Peut-être que tu as d'autres objectifs de ce type-là qui ne sont pas des règles, qui répondent pas à des règles, comme par exemple optimiser tel ou tel composant du système de jeu, mais qui restent aussi des objectifs que tu vas optimiser dans une vue tactique.
Est-ce que c'est aussi, par exemple, mettons, je prends, si tu joues à l'Appel de Cthulhu avec les règles, je vais pas prendre la dernière édition, la 6 ou la 7 parce qu'elles sont trop modulaires, c'est pas un bon exemple, mais avant, il y a vraiment un seul bloc de règles pour l'Appel de Cthulhu. Mais en fait, avec la feuille de personnage, la façon dont optimiser la création de personnage, tu pouvais soit jouer très en quête, soit jouer vers entre guillemets du meulage de monstres. Et du coup, est-ce que ça fait partie justement du méta-jeu, se mettre d'accord sur est-ce qu'on joue surtout de l'enquête ou est-ce qu'on joue surtout du combat contre les monstres?
Moi, je vais.
Moi, je le verrais comme de
Ouais.
l'équilibre méta au niveau du groupe. Excuse-moi, Xavier, vas-y, je te laisse
Non,
continuer.
vas-y, Pierre.
Pour moi, en fait, c'est une question d'équilibre d'environnement. C'est-à-dire que si tu supposes que ton groupe, c'est une cohorte de 4-5 personnes, en fait, si tu veux un groupe qui est diversifié, ton équilibre méta, tu voudras qu'il soit polyvalent pour pouvoir faire des phases d'enquête et des phases d'action.
Ouais.
Si tu veux que ce soit un groupe qui soit plutôt orienté pulp, c'est comme ça souvent que c'est présenté. Dans la presse spécialisée, tu auras un groupe plutôt orienté meule, avec une capacité à absorber les pertes de SAN et les dégâts physiques. Et si tu veux
90%
un
en
groupe qui soit
esquive,
plutôt orienté
déjà ça va beaucoup
pacifique.
mieux après.
Pardon?
Tu te mets 90% en esquive, 90% en explosif.
Et ça va
Ouais, c'est
mieux
ça,
après.
puissant jeu tactique. Voilà.
Moi, ce que je voulais dire par rapport au jeu tactique, c'est que sous sa forme traditionnelle, hein, si on reprend Donjons et Dragons, il y a une grosse phase d'étude des règles. C'est-à-dire qu'un bon joueur de Donjons et Dragons, il connaît tous les sorts, il connaît tous les monstres, il connaît tous les dons, il a été lire tous les forums pour connaître toutes les optimisations, les compos, etc. Et donc il y a vraiment un jeu dans le jeu, mais qui se fait aussi hors partie. C'est-à-dire que il y a un moment où tu joues à ton jeu de rôle tactique en anticipation de la
Ah, il y a un
partie.
moment où tu bosses le guide du joueur.
Voilà, tu bosses le guide du joueur, tu bosses tes builds, et donc après, effectivement, dans un deuxième temps, il va y avoir il y a éventuellement la recherche de synergie au sein du groupe, de discussion, etc. Alors c'est rapproché, hein, à d'autres méthodes de jeu. Dans le jeu esthétique, les joueurs, ils vont avoir tendance à s'envoyer des mails hors partie, à raconter des nouvelles hors partie,
À
etc.
bosser l'univers.
À bosser l'univers. Et donc dans le jeu tactique, eh ben, c'est potasser de la règle, quoi. Chercher l'optimisation, chercher à être le plus efficace, connaître toutes les bidouilles pour pas être surpris si on nous sort, ben voilà, le grand méchant est dans un mur prismatique, qu'est-ce qu'il faut pour passer les différentes couches, etc., etc. Donc il y a vraiment un jeu hors de la table, dans le jeu tactique, qui dépasse pour moi, le métajeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans les jeux tactiques, qui vont construire des builds, qui vont construire des personnages qui ne joueront pas, mais uniquement pour la construction intellectuelle ou pour pouvoir en discuter sur les forums avec leurs potes, quoi. Donc on est,
Alors,
pour moi, on est un clic plus loin du métajeu encore, tu vois.
ouais. Ouais, puis on
Alors,
parlait justement, il y a la création de personnages qui fait partie de ce métajeu-là, où on se met d'accord entre joueuses pour, ok, bah, moi je vais jouer l'enquêteur, moi je vais jouer l'action, ou dans mon Donjons et Dragons, les fameuses classes de personnages,
voilà, qui joue le
chacun doit se mettre
soigneur, qui joue
d'accord,
le... Voilà, etc.
Voilà, donc là, en fait, je vais aussi abonder dans le sens de Xavier, dans le sens où là, je vais sortir mon carton joueur tacticien. Mais c'est vrai qu'avec mes potes, quand on joue à Pathfinder, on a tous nos PC sur la table. On a un logiciel qui s'appelle HeroLab, qui est payant. Et en fait, avant, on a construit des centaines de builds différents. Et on les a fait à tous les niveaux pour voir comment la chaîne de puissance allait se constituer. Est-ce qu'ils seraient forts, est-ce qu'ils seraient des persos tier 1, c'est-à-dire, on va dire, le top du fort, à partir du niveau 4, à partir du niveau 6, à partir du niveau 8. Et on cherche toutes les combinaisons possibles, et dès qu'il y a une nouvelle extension, on fait des recherches sémantiques de mots-clés par rapport aux thématiques qui nous travaillent. Et donc on travaille la force individuelle des personnages, mais aussi, dépendamment de comment on conçoit le groupe, on choisit des fois des groupes aussi de branquignoles qui vont pas comboter, on choisit des groupes qui sont faits pour comboter et tomber très très fort. Et donc, pour continuer sur cet aspect-là, quand on joue un Adventure Pass sous Pathfinder, qui correspond à une campagne qui est censée nous emmener assez loin, si on a vraiment optimisé notre groupe, il faut que le MJ renforce fortement l'adversité s'il veut qu'il y ait un peu d'angoisse. Et si on fait un groupe qui est de branquignoles qui ne combattent pas intentionnellement, on rigole bien, mais par contre, des fois, il faut qu'il nous aide un peu.
Et là, on voit la limite du jeu tactique, c'est-à-dire que souvent les gens qui se plaignent du jeu tactique sont les gens qui n'aiment pas parcourir les règles. Les gens qui n'aiment pas se taper 20 pages ou 50 pages de sorts
Alors
ou
on va
de
y revenir globo dans les différents types,
dons.
mais je pense qu'il y a certaines formes de jeux tactiques qui nécessitent aucune préparation en amont en fait.
Ok. Ouais, mais c'est assez moderne ça, tu vois.
Peut-être,
Moi,
peut-être,
j'ai
ouais.
découvert ça avec Sombre, avec
Ouais.
tu vois.
Alors la suite, c'était juste de préciser hein, que comme pour tous les podcasts, on rappelle que à mon sens, et je pense que ça rejoint un peu ce que voulait dire Pierre, le jeu de rôle tactique, c'est un atome de jeu, il n'est jamais présent tout seul, c'est-à-dire qu'une partie, elle va aussi comporter des éléments moraux, esthétiques, sociaux. Donc là, on s'intéresse entre guillemets, tactique et dominant, mais en fait, au sein d'une partie, il est jamais présent tout seul, quoi. Et ça, aussi un petit rappel personnel que je regrette d'avoir omis dans les précédents podcasts. En ce qui me concerne, en tout cas, tous ces podcasts, c'est de la réflexion en cours, c'est de la réflexion à voix haute. J'ai aucune vocation à asséner des vérités absolues. C'est vraiment pour ouvrir un débat. Et du coup, c'est ouvert aux commentaires et à la contradiction, quoi.
Ouais. Ce que je voudrais rappeler, c'est que donc la caricature du jeu tactique, c'est le PMT, hein, on en a parlé, porte-monstre trésor.
D'accord que tu puisses faire du PMT, que ce soit pas du tout tactique.
C'est fort. Bah, j'aimerais bien que, voilà, je termine mon propos, puis j'aimerais bien que tu développes un peu ça, parce que j'en serais. Et donc le PMT, c'est la caricature du jeu tactique, parce que c'est le moment où le jeu tactique passe en roue libre. C'est-à-dire que la seule chose qui justifie l'avancée dans le scénario, c'est le prochain combat. Et c'est la mauvaise manière de jouer le jeu tactique. La bonne manière de jouer le jeu tactique pour moi, c'est que chaque combat soit un climax ou un climax intermédiaire, et que tout concourt à tendre le jeu, la situation et la diégèse vers quelque chose d'intense. Et ça passe par les autres propositions esthétiques. C'est pas ce qu'il va y avoir des enjeux moraux, c'est pas ce que tu as du lien social, c'est pas ce que tu es plongé dans un esthétique et dans un univers que cette apothéose, ça va être le combat final ou le combat contre le gros boss intermédiaire. Tu vois
Quelque
ce que
part,
je veux
c'est un
dire?
peu la différence qu'il peut y avoir entre un jeu abstrait type jeu de go, jeu d'échecs, ou les jeux abstraits modernes, et puis un jeu de plateau moderne où il y a eu, en fait, en plus des règles du jeu, il y a une thématique, il y a des dessins, tout ça, qui font que il y a un petit côté ce que j'appelle eye candy, bonbons, des bonbons pour les yeux, quoi. Qui fait que tu vas un peu plus accrocher au jeu, même si, enfin, que ça va permettre de rester dans le jeu. Alors qu'un jeu abstrait, des fois, il y a vraiment, c'est aride, il n'y a plus que de la tactique. Et donc, du coup, ça peut être réservé, entre guillemets, ça peut diminuer un petit peu le nombre de personnes qui pourraient s'y intéresser, quoi.
Et puis surtout, les combats s'enchaînent au bout d'un moment, sans, si on est trop dans l'abstraction, ça s'enchaîne, mais ça n'a plus de sens, quoi. Si ce n'est que le seul prétexte, il est au combat suivant, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Bah, en tout
Pierre?
cas, ouais, bah, moi, par rapport à tout ça, en fait, je t'avoue que ma croyance, c'est vraiment que le jeu tactique se distingue, ayant l'atome du jeu tactique se distingue des éléments moraux, esthétiques ou sociaux, dans le sens où, quand dans un jeu, je veux par exemple traiter d'un dilemme moral, que ce soit un dilemme moral en général sur une croyance, que ce soit un dilemme moral spécifique sur un sujet comme la féminité ou le traitement des enfants, il reste que, je vais l'aborder aussi sous un aspect tactique, dans le sens où mon but, ce sera que dans la partie, les enjeux moraux soient traités. Et vu que c'est un objectif que je me fixe en tant que joueur, je vais le jouer de manière tactique. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que mon personnage soit secoué ou qu'il pose les problèmes moraux que j'ai envie d'aborder et de faire réagir les autres autour. Donc pour moi, je dirais que dans une grille qui n'est pas une lecture de qu'est-ce que je veux faire en tant que joueur, mais comment se structure la partie, il reste que pour moi, la tactique, elle va s'imposer comme quelque chose qui est possible, je dis pas nécessaire ou bénéfique, mais qui est possible, quels que soient les autres objectifs qui vont être fixés, parce que tout simplement, dès que tu aspires à un jeu moral ou esthétique ou social, en fait, bah, il y a des objectifs qui en découlent, donc tu peux les optimiser.
Ouais. Alors si tu me permets, Pierre, c'est vrai qu'on avait déjà eu cet échange-là, et du coup je pouvais harmoniser ce que tu disais avec ma propre vision. Et par exemple, dans la définition que j'ai donnée du jeu tactique, je pense que je parle vraiment de jeu, c'est-à-dire la dynamique de la table, le jeu comme il se déroule. Et là, ce que tu présentes, par exemple, le fait qu'on ait posé qu'on allait faire du jeu moral et que du coup, en tant que joueur, tu vas réfléchir et tu vas faire des efforts pour que les dilemmes moraux, ils arrivent bien. Quelque part, ce que tu définis, c'est ce que j'appelle le joueur tactique. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le jeu tactique et d'un autre côté, il y a le joueur tactique. Est-ce que je suis clair? Ça me paraît clair.
Sérieusement, moi je trouve ça plutôt clair et j'aime bien en plus cette lecture-là des choses, en sachant que c'est vrai que pour moi le pont entre ces deux visions-là, c'est exactement ce que je voulais sur quoi je voulais insister avant, qui correspond à le jeu et le méta-jeu. Dans le sens où, comment dire, quand tu commences à inclure le joueur avec la vision tactique dans ton système d'analyse, à ce moment-là, le joueur tactique existe et lui, il permet de jouer à tout ce que tu veux, quelle que soit la proposition.
Voilà.
Et techniquement, en fait, là, pareil, petit point geek un peu bizarre, mais il reste que la théorie du méta-jeu, c'est quelque chose qui a été posé par Nigel Howard dans les années 70, et un brave professeur anglais de sciences économiques et mathématiques. Et en fait, on peut télécharger certains de ces PDF. C'est
Tu
lui qui m'a
pourras
fait
nous envoyer le
découvrir
lien,
ce
comme ça on fera une biblio
Exactement.
avec
Et
le
c'est super
podcast.
intéressant de voir des chercheurs de maths un peu fondamentales et de sociologie qui pondent des trucs, en sachant que ça a été utilisé notamment pour les négociations internationales sur plein de sujets. Donc, autant le désarmement nucléaire à la fin des années 80, et après plus tard, certains conflits pour alimenter en des ONG ou des choses en termes de nourriture.
Ok. Alors, si vous êtes d'accord, je passerai bien au point suivant.
Ok.
qui était coopération et compétition, dans le sens où c'est comment deux aspects comment deux aspects qui sont importants dans le jeu tactique. Alors pour faire simple, hein, il y a joué à trois déclinaisons. Il y a les joueurs contre l'environnement, c'est-à-dire que les personnages forment une équipe soudée, quoi. Il y a les joueurs contre joueurs. Donc joueur contre joueur, typiquement on va avoir Paranoia qui propose ça, hein, du joueur contre joueur, c'est-à-dire que officiellement les personnages sont en équipe, mais en fait tout le monde joue un peu pour sa
Gueule.
couenne. Des jeux de rôle où dès le départ les personnages sont en opposition frontale et directe, j'avoue j'en connais pas beaucoup. Bon, mais par exemple si on faisait Battle Royale en jeu de rôle, bon bah on serait là-dessus, on serait sur du player versus player, quoi. Il y a quelques scénarios sombres qui démarrent direct comme ça en player versus player. Et enfin, il y a ce qu'on va souvent rencontrer, c'est le coop compétitif, c'est-à-dire
Alors.
soit vas-y Pierre, je t'écoute.
Non, non, c'est Julien, là,
Julien.
j'interviens. Du coup, pour te donner un exemple, tu as un jeu qui prévoit de jouer en joueur contre joueur purement, c'est Ombre. Puisque dans Ombre, tu as un mode de jeu qui s'appelle la course au trône, où tu vas créer une partie où chacun va jouer un personnage avec pour objectif de devenir le nouveau roi d'Ombre. Et donc, c'est du pur joueur contre joueur.
Ok, génial. Super exemple.
Autre interruption, dans mes vieux souvenirs, il y a Street Fighter 2 en jeu de rôle qui était pas mal en termes de joueur versus joueur.
D'ailleurs, je tiens à préciser que Julien et moi sommes des grands fans de Street.
Il est en train de partir chercher un bouquin, je pense, pour me montrer à quel point je me trompe.
Non, non, non. Je veux dire, voilà, ça fait partie de nos grands délires de jeunesse. Bon, du coup, on t'a interrompu,
Donc le
Thomas.
coop compétitif, il mérite d'être un petit peu plus détaillé. Le coop compétitif, c'est soit il y a comment l'équipe est coupée en deux, c'est-à-dire que c'est deux équipes qui vont s'opposer. Soit c'est une seule équipe qui est soudée en théorie, mais à l'intérieur de l'équipe, il y a une ou plusieurs taupes. Moi, j'ai découvert ça, je me rappelle, j'étais en convention à Mulhouse, première convention, on joue, je crois, du cyberpunk. Et donc, mission, je sais plus ce qu'il faut faire, enfin bon. Et moi, super naïvement, comment je joue la mission, et je vois sur ma feuille de personnage que je suis une taupe. Et en fait, très très naïvement, je me suis dit, bah, je suis sans doute la seule taupe de la bande, quoi. Et donc, j'essaye de blouser un peu tout le monde, et en fait, je me suis fait buter parce que ce que j'avais pas compris, c'est qu'il y avait quasiment que des taupes dans l'équipe, mais pour des factions différentes, quoi. C'était ma première expérience de coop compétitif. J'ai vécu un peu dans la douleur, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend.
Mais
Et le coop compétitif, ouais, donc bah y a le comment, il y a la taupe. Il y a aussi, si on s'imagine Battlestar Galactica, le jeu de rôle, eh ben c'est le Cylon, c'est bah non, le Cylon c'est une taupe, mais ça peut être l'infecté zombie, alors qu'il le joueur le sait ou ne le sait pas, c'est-à-dire qu'on peut à un moment découvrir, les rôles peuvent changer en cours de jeu. Le Battle Royale c'est intéressant parce que souvent quand dans les films Battle Royale les personnages ont des liens affectifs entre eux en fait avant qu'ils soient vraiment obligés de s'entretuer. Donc dans S'échapper des Faubourgs, un jeu que j'ai écrit, joue beaucoup là-dessus parce qu'au départ on joue des personnes qui sont proches, des amis, des cousins, des amants. Sauf qu'ils doivent s'échapper des faubourgs, il y a qu'un seul billet de sortie. Donc au début ils peuvent coopérer, sachant qu'il y a des moyens d'avoir un deuxième billet de sortie. Mais de toute façon, il y a un moment où on sait qu'il va falloir se mettre sur la gueule. Et en fait, il y a une mécanique de mid-game, c'est-à-dire au milieu du jeu. Au début du jeu, il s'est interdit de se tuer entre personnages. Et au milieu du jeu, en fait, ça devient autorisé. Donc on bascule en fait du coopératif vers le compétitif.
Moi, dans les jeux dans ce domaine-là, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Mountain Witch, où on joue des Romains, des renins, donc des samouraïs déchus, qui se sont liés pour les foutre sur la gueule à un sorcier qui vit sur le mont Fuji. Et donc ils sont tous liés pour y arriver, mais en fait ils ont chacun un secret et un agenda différent qui vont les pousser à avoir des dilemmes et à tenter de trahir ou de se la jouer solo ou de ne pas avoir tout à fait le même objectif que les autres. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup avec des systèmes de trust, donc de confiance, qui sont assez super, voilà, Mountain Witch.
Sinon, dans Agone, Agone, c'est compétitif, c'est coopératif dans la diégèse, c'est-à-dire qu'on joue un groupe de héros qui affrontent une adversité unique, mais c'est compétitif dans le méta-jeu, c'est-à-dire que c'est entre guillemets, c'est au joueur qui va achever le monstre final. Enfin, grosso modo, il y a une espèce de combat pour les pecs, quoi.
Ouais.
Après, on
Ouais.
peut aussi dire que c'est compétitif dans la diégèse où il y a une sorte, finalement, on joue des héros qui jouent à savoir qui a la plus grosse, quoi.
Et je disais,
Bien sûr.
c'est Agone de John Harper.
Agone John Harper, oui, tout à fait.
Voilà, mais donc en tout cas, ouais, par rapport à ça, moi, ce qui me vient en tête sur cet aspect coopératif compétitif, c'est aussi la plupart des coteries de vampires auxquelles j'ai assisté, en fait, où quelque part, il y a le prince qui donne un objectif. Tout seul, on est trop faible pour le faire, donc on va se regrouper, on doit coopérer. Par contre, à la fin, on va essayer d'être le premier pour pouvoir diabler l'ancien en premier et gagner la génération avant les autres.
Ouais, puis
Ou
tu peux
alors,
avoir
on a
tes
le
intrigues
clan, ou
perso
alors
en
on a le
même
clan
temps.
qui nous donne des objectifs, la secte, etc. Mais il reste que, à la fin, ça se résume. Merde, ça peut aussi être un peu ça.
Et c'est aussi le format de base de la plupart des soirées en quête, où chacun a ses objectifs et travaille ensemble à la résolution du mystère quand même. Voilà, je vous laisse parler.
Et donc,
Super.
si on revient au grand ancien, à Donjons et Dragons, moi, quand j'étais jeune, on jouait beaucoup de cette manière-là. C'est-à-dire qu'avant la fin du scénar, on se demandait qui on allait pouvoir buter pour looter son matos à la table, tout en se demandant à quel moment il fallait le faire pour qu'on reste encore suffisamment balèze pour pouvoir se faire le boss de la fin du donjon, tu vois. Et donc, il y avait un jeu très hockey choral, où personne essayait de dévoiler ses failles et ses faiblesses, en espérant que les autres ne se ligueraient pas contre lui, et en même temps en se demandant à quel moment il allait pouvoir leur faire une entourloupe, parce qu'il louchait sur l'épée vorpale du mec d'à côté, etc., etc. Bon, j'étais jeune et adolescent, hein, c'est.
Dans Warhammer Quest, les points d'expérience, c'est l'or en fait. L'or, c'est une ressource que tu vas utiliser à la fois pour monter en niveau ou pour acheter du matériel. Et en fait, pour récupérer de l'or, notamment, faut tuer des monstres. C'est-à-dire, tu prends l'or qu'il y a sur le monstre. Hein. Ou alors même les vers géants portent des pièces d'or hein, dans Warhammer Quest. C'est un peu old school de ce point de vue-là. Et donc, pour gagner l'or, en fait, il faut être celui qui enlève le dernier point de vie du monstre. Donc, le groupe dans Warhammer Quest, le groupe est censé être coopératif. On est ensemble pour nettoyer le donjon. Mais il y a cette compétition-là pour savoir qui enlève les derniers points de vie du monstre, avec des scènes absolument ubuesques quand t'as un monstre à 90 points de vie, tu lui enlèves 89 points de vie, et puis là, il y a le perso derrière qui arrive et qui lui fait perdre son dernier point de vie, et qui te vole toutes les pecs, quoi.
Ouais. Mais voilà, du coup, je sais pas si toutes ces Si toutes ces, enfin, cette manière de voir, elle est, tu vois, la distinction joueur contre enfin, personnage contre l'environnement, personnage contre personnage ou compétitif, je ne sais pas si c'est propre au jeu tactique, moi. Tu vois, je ne sais pas
Comment en
si.
fait
En fait,
donc en fait
ce qui
comment
est
en fait la
important, c'est que
notion
ça,
de
c'est plus sous
tactique
l'angle sportif, en fait, si on veut,
voilà.
qui va
Ouais,
être
d'accord.
absent du jeu moral et du jeu esthétique. Donc c'est coopération, compétition, mais imagine ça en fait, ouais, il y a un côté sportif en fait dans l'esprit.
Ouais, ok. Le célèbre, le droit de se la péter,
Ouais, voilà.
propre au
Tout
gamisme.
à fait,
Ok.
tout à fait. Ouais.
Ouais, pour moi, il y a une mesure numérique de la chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais du coopératif, si tu as deux joueurs, tu as Bob et Jack, et en fait, la force de Bob, ce sera 100, la force de Jack, ce sera 110, par exemple. Et en fait, un bon groupe coopératif, il va être suradditif. C'est-à-dire que la force de Bob plus Jack, ça va pas être 210, donc 100 plus 10, ça va peut-être être 250. Parce qu'en fait, il y a des synergies et des combinaisons. Et après, les groupes qui sont pas bien constitués, ils vont être sous-additifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont réussir à être moins forts ensemble que tout seul, que la somme des individualités. Et donc, en fait, cette logique de coopérativité, c'est quelque chose qui peut se quantifier assez souvent, assez facilement, et qui permet quand même de mesurer un peu à quel point tu arrives à être bon là-dedans, quoi. Voilà. Dans notre groupe, on a un joueur qui arrive à être sous-additif en permanence, quel que soit. Il peut pas s'en empêcher, il
C'est
réfléchit
la mascotte.
autrement, il est sous-additif.
C'est la mascotte.
C'est
C'est pour
Ron
ça qu'on
Burgundy.
regarde.
Non, c'est un défi, c'est comme tu joues comme jouer avec un handicap. Si vous voulez bien, je vais passer au point suivant.
Ouais, il faut qu'on avance, tu as raison.
Sur la posture, en fait, quelle est la posture du joueur dans le jeu tactique? C'est ce que Frédéric Sintès appelle la combativité, dans un article qui s'appelle Combativité et Absorption. C'est-à-dire que les joueuses défendent leur personnage, plus exactement dans le jeu tactique, et vont surtout défendre l'objectif du personnage. Et pour que cette combativité soit comment enrichie par le jeu, pour qu'elle soit permise, l'objectif doit être atteignable. Même s'il peut être super dur. Par exemple, dans Sombre, survivre, c'est super dur. Mais généralement, c'est calculé pour que ça soit possible, même si super dur. Si on fixe des objectifs qui sont hors d'atteinte, on tue le jeu tactique et on tue la combativité. C'est-à-dire que si les joueurs se rendent compte que ça sert à rien de défendre son personnage, eh bien, elles vont abandonner la combativité.
Moi, je doute pas de ça. Pour moi, ça, c'est un peu une lapalissade.
Alors
Ce
là,
qui
moi,
tue.
comment dire, j'ai quand même un commentaire, c'est que quand tu es poursuivi par un ours, ton but, c'est juste de ne pas être celui qui court le plus lentement.
Ouais.
Ah, mais ça peut s'arrêter à là, hein, les objectifs du personnage. Hein.
Mais moi, je
C'est
pense
des
que
choses qui sont renégociées en permanence dans la fiction.
voilà. Ce qui tue le plus la combativité, c'est que les objectifs soient trop facilement atteignables, au contraire.
Et oui, bah
C'est-à-dire
ça, ouais, tout à fait, ouais.
enchaîner les combats ou les pas, on va pas dire mystères, mais tu vois les puzzles, comment dire, les épreuves qui à la limite n'ont pas d'enjeu et sont faciles. Moi, ce qui me dégoûte le plus dans un jeu,
C'est pour ça qu'on parle de hard fun.
voilà, c'est pas que ce soit dur, c'est que ce soit facile. Parce que quand tu atteins quelque chose, quand tu réussis quelque chose qui est dur, tu as cette satisfaction de toi qui confine au droit de se la péter, tu vois.
Il y a la notion de flow, en fait, qui dirait que pour atteindre le flow, cette espèce de plaisir tactique, d'immersion dans le défi, il faudrait que les défis soient toujours un tout petit peu supérieur à ce que tu peux réussir sans effort, quoi.
Voilà, pour
Que tu
t'obliger
sois
à te
toujours en
dépasser.
train de faire des
Voilà.
efforts, avec quand même une proportion d'échecs suffisante aussi pour que tu apprennes et que tu et ça valorise ta réussite, quoi.
Tout à fait. Ouais.
Je vais aussi raconter une anecdote qui restera entre nous trois, mais c'est
Bien sûr.
qu'au final,
Il y a que les millions d'auditeurs des Voltarides.
on faisait une partie un peu orientée tactique confrontation avec des potes. Et là, c'était plutôt moi qui étais à la mène. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, je me suis vraiment loupé sur l'opposition et c'était vraiment trop facile pour eux. Et en fait, il y a aussi en conséquence, j'ai vraiment, comment dire, c'est bizarre, c'est peut-être lié à moi, mais j'ai vraiment eu honte en fait à la fin parce que j'avais l'impression d'avoir raté leur plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, ils avaient gagné, mais ils n'avaient pas l'impression d'avoir gagné de par la qualité de leur choix, mais plutôt par une absence d'opposition. Et ça, en fait, je trouve que c'est vraiment, par rapport à un joueur qui cherche la tactique, c'est très décevant.
Ouais, je pense. Ouais. C'est sans doute le crime absolu en jeu tactique, quoi. C'est proposer quelque chose de facile.
Alors, pour revenir sur la combativité, dans la notion de combativité, je pense, alors ça peut être la combativité renforcée si tu es attaché à ton personnage, si tu t'identifies d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça que, en ce qui me concerne en jeu tactique, je suis pas forcément, je parle pas toujours de combativité. On peut aussi parler de posture de pion, c'est-à-dire qu'en fait, il est possible que tu peux prendre ton pied dans le jeu tactique en ayant autant d'attachement à ton personnage que à t'aurais un attachement à ta combinaison de paintball. C'est-à-dire c'est le personnage comme combinaison pour faire les défis de l'aventure, quoi. Et donc du coup, la notion de je défends mon gestion de personnage parce que j'aime mon perso, je sais pas si elle est vraiment valable en jeu tactique.
Alors, je vais te raconter une anecdote hein, propre à Donjons et Dragons. Sur les premières éditions, Donjons et Dragons basiques, AD&D première édition, sont assez mortels, surtout à bas niveau, particulièrement à bas niveau. Et donc, effectivement, il y avait une blague à un moment où on délirait sur en fait, tu ne donnes pas de nom à ton perso avant qu'il atteigne le niveau 3 ou 4. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'une fois que tu as enchaîné des exploits, alors ton personnage devient quelqu'un, alors il devient un héros. Il n'était pas héros au départ, mais il l'est devenu. Et ton attachement et la fierté que tu as à jouer ce personnage et à l'avoir fait survivre est d'autant plus importante. Mais au départ, quand tu rôles ton personnage niveau 1, il vaut mieux pas t'attacher à lui, quoi. Et ça, cette expérience, tu peux la retrouver à l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire que quand tu as fini la campagne des montagnes hallucinées avec le même perso depuis le début, il y a une
Et tu
fierté tactique.
l'encadres. Mais
Mais
je
quand
sais
tu
que
joues à
ouais.
l'appel de Cthulhu, tu sais que bah,
Ouais.
ton personnage, surtout sur une campagne, il pourrait vite. Enfin, il y a des campagnes où les gens ont enchaîné 20-30 personnages pour la finir, tu vois. Et donc on peut se poser aussi la question dans ce contexte-là de l'attachement qu'ils avaient à leur personnage. Donc pour moi dans un jeu tactique, peut-être qu'au départ quand tu es encore dans l'abattoir, tu ne t'attaches pas trop à ton personnage parce que tu sais que tu peux le perdre vite. Mais par contre, une fois qu'il est devenu héros, une fois qu'il a survécu, une fois qu'il est devenu puissant, alors il y a vraiment un attachement qui se crée. Et pas qu'un attachement personnel, c'est-à-dire que les autres joueurs finissent par te rappeler tes exploits, te dire ah ouais, tu veux pas jouer ton perso nanana cette fois-ci, et est-ce que tu vas nous jouer ton duelliste nécromancien maître du temps, ou est-ce que, enfin tu vois,
Ouais.
c'est-à-dire que l'attachement dans un jeu tactique, il n'est pas, pour moi, il n'est pas a priori, mais il est a posteriori ou en construction des épreuves au fil de la campagne. Allô, je suis tout seul.
Moi, je suis prêt à passer au point suivant, mais Pierre avait peut-être une réaction.
Non, franchement, j'abonde complètement dans votre sens, dans le sens où c'est les cicatrices qui font l'attachement au personnage. Et je dirais que je voulais faire aussi une petite punchline en disant que ça, combien de salles t'as passé dans la tombe de Yushiban, c'est aussi un endroit assez gritty où t'as tendance à mourir à chaque pas.
Ouais, bien sûr. C'est rigolo, enfin, dans un jeu qui, pour moi, est vraiment à forte tendance esthétique et qui se prête pas facilement au jeu tactique qui est L5R, eh ben un des enfin dans les premiers scénars un peu mythiques qu'ils ont sortis, il y a Tomb of Yushiban qui est à L5R ce que la Tomb of Horror est à Donjon Dragon, quoi.
L'autre posture, si on veut, qui est importante pour le joueur pour la joueuse tactique, c'est, bon voilà, Globo, on va tomber dans ton domaine de prédilection, c'est l'agentivité. Alors, on en avait discuté, je suis pas sûr de comprendre ça de la même façon que toi, donc je vais me permettre de faire une définition.
Ouais.
C'est-à-dire que ce que j'appelle l'agentivité en jeu de rôle, c'est la liberté d'action. C'est-à-dire que c'est important que les personnages aient une liberté d'action, c'est-à-dire qu'ils soient libres, que les joueurs soient libres de prendre des décisions pour leurs personnages, et que leurs actions aient des chances de réussite.
Ouais, bah c'est un petit peu ça. L'agentivité, c'est agency en anglais, et c'est pas facile à traduire en français. Les philosophes le traduisent parfois par pouvoir d'agir, mais pour moi, l'agentivité, c'est vraiment la possibilité de faire des choix et avoir l'assurance que ces choix seront respectés et qu'ils auront un impact en jeu.
Bon, si on analyse la combativité, la gentilité, c'est quasiment synonyme, hein, parce qu'en plus, Frédéric Sintès, il dit pour la combativité, s'inspire de l'empowerment. Alors, tu vois,
Oui,
pouvoir
voilà,
d'action.
le pouvoir d'agir.
Bon, hein, on est en train d'agresser sexuellement des diptères là, mais c'est pas grave. Il y a un corollaire pour moi au fonctionnement de la gentilité, c'est qu'il faut aussi que cette liberté d'action, elle ait des limites. C'est-à-dire que quand je rencontre Yoxotot, je peux, j'ai une chance de le tuer avec mon flingue. Il y a un problème. Ou si on joue à Cops des enquêteurs et qu'on va chier sur le bureau de la gouverneuse, il faut qu'il y ait des conséquences, quoi. Alors, des limites et des conséquences, quoi.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec l'agentivité dans le jeu tactique, c'est qu'il y a eu un moment dans l'histoire du jeu de rôle où le storytelling a été vraiment très à la mode. C'est-à-dire que le maître jeu omnipotent avait tous les droits à partir du moment où il racontait la meilleure histoire possible à
Bah,
ses
il était là
joueurs.
pour raconter une histoire
Voilà.
plutôt que de faire jouer une aventure, quoi.
Voilà. Et le seul endroit où, dans ce cadre-là, il restait une part d'agentivité aux joueurs, c'est pendant les combats, puisque c'est le seul moment où le maître de jeu ne se permettait pas de dire, tiens Bob, c'est maintenant que tu lances ta boule de feu,
Ouais, mais en même
et
temps,
toi Michel, c'est là que tu balances ta
des
potion de
combats aux
soin.
résultats joués d'avance, j'en ai vu, j'en ai fait, quoi.
Certes,
Des combats où en fait c'est calculé soit d'avance, soit par une subtile acrobatie au cours du combat, mais que le MJ c'est dès le départ que le combat va être gagné ou perdu. Et ça atteint une sorte de quintessence dans Sens Renaissance, hein, où tout le Sens Renaissance, Sens Mort, tous les résultats des combats sont donnés d'avance. Ce combat-là, il sera perdu, ce combat-là, il sera gagné.
Oui, certes. Mais pendant très longtemps, enfin dans le monde du
Ah,
storytelling, tu vois,
tous les
un peu
combats
important,
charnières de la
voilà,
campagne. Hein, je veux pas
voilà les
dire que,
climax, on va
ouais,
dire.
y a des les, par contre, ils sont non joués d'avance.
Mais pour autant, on ne te dit pas ce que tu dois faire dans ce combat-là. Mais effectivement, c'est une fausse adversité, c'est une fausse rencontre. Enfin, c'est plus une péripétie. Là où il y a
Bah,
malhonnêteté,
ça
c'est
se
que
rapproche du quick time event, si tu veux,
voilà.
entre un combat classique dans un jeu vidéo et un quick time event. Dans le quick time event, en fait, il faut juste cliquer sur les endroits qu'on t'indique. Donc tu joues, mais en même temps, tu t'es un peu manipulé, quoi.
Bien sûr, oui. Mais quelque part, pour moi, il y a une voilà, on trompe les gens sur le contrat social, c'est-à-dire qu'on leur fait croire que c'est le gros combat, le moment où ils vont briller,
Et surtout le
le
moment
moment où ils seront
décisif,
le moment
ouais.
décisif, etc. Et en fait, bah, pas du tout quoi. C'est juste une belle cinématique et voilà, tu pourrais te rouler par terre en rigolant que ça ne changerait rien, tu vois.
Cette agentivité, il faut aussi qu'elle connaisse une progression. Et c'est là où on entre dans un truc important, c'est la notion de gain d'expérience, quoi. C'est-à-dire que il faut que le personnage gagne ou la joueuse, là c'est un petit peu difficile à distinguer, gagne en liberté d'action au fur et à mesure du jeu, quoi.
Mais parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'il n'y a pas de tactique sans choix. Tu vois, si tu as pas différentes options qui vont toutes présenter des avantages et des inconvénients, alors il n'y a pas de choix tactique. Tu vois, si tu as le choix entre un seul pouvoir super balèze qui déchire tout et 15 autres qui servent à rien, eh bien les joueurs, ils vont jouer monobouton, tu vois, ils vont tout le temps enclencher leur truc. Et la richesse d'un jeu tactique, elle est de proposer des vraies alternatives tactiques. Une vraie agentivité, voilà. Qu'est-ce
Ouais,
que
tout
tu
à
veux?
fait.
Quelles conséquences ça va avoir? Quel choix tu fais? Est-ce que tu gères ça par rapport au timing? Est-ce que tu fais ce choix-là parce que t'espères que ton pote après, tu sais qu'il a tel pouvoir qui va l'enclencher? Est-ce que tu joues méta? Enfin, là, on est dans de l'agentivité.
Alors, avant de donner la parole à Pierre sur ce sujet, je voulais juste conclure, hein, sur l'agentivité sur mon point de vue personnel. Je vais donner deux exemples extrêmes pour qu'on situe un peu bien. Des fois, c'est bien de donner les extrêmes. Dans Monostatos, on a une liberté d'action extrêmement basse, dans le sens où le jeu te dit vous jouez des rebelles qui doivent affronter Monostatos. Bon, je pense que je caricature parce que tu peux définir des objectifs et
Ouais,
tout, mais on a quand même un gros prérequis
le pitch de
qui est
base, c'est ça, quoi. Mais
bah,
on
c'est
y pense
Monostatos et il faut y aller, vous devez jamais reculer, c'est votre objectif. Donc on a un exemple entre guillemets de liberté d'action basse. Et l'extrême haut qui me vient à l'esprit, c'est Apocalypse World. Alors pourquoi Apocalypse World? Alors c'est peut-être une interprétation biaisée des règles, hein, ça se trouve je me gourre complètement. Mais dans Apocalypse World, tu as cette notion de quoi que tu veuilles faire, tu as le droit de lancer des dés pour essayer. Et il n'y a pas de seuil de difficulté adverse. Donc quelque part, tu es seulement brimé, dans ta capacité à réussir, tu es seulement brimé par les stats de ton personnage, quoi. Mais grosso modo, tu jettes 2 dés plus ta stat. Et si tu fais entre 6 et 9, c'est une réussite mitigée. Si tu fais 10 plus, c'est une réussite. Et du coup, potentiellement, tu peux réussir tout et n'importe quoi. C'est donc du coup ta liberté d'action est là potentiellement aucune limite. Dans Inforenza, c'est le cas aussi, puisque c'est la joueuse qui définit l'objectif. Quand il y a un conflit, quand on lance les dés, c'est la joueuse qui définit l'objectif, ce qu'elle veut atteindre si elle réussit. Et en fait, elle peut définir n'importe quel objectif. Parce que bon, c'est fait pour faire du jeu de super-héros, mais en même temps, c'est précisé que il est bien des fois de se mettre d'accord sur des choses qui sont inatteignables. On avait fait une partie notamment où on rencontrait le pape qui était infecté par un grand ancien, et on avait défini pour lui donner une certaine crédibilité en tant que méchant que lui il était invincible. On n'avait pas le droit de lancer les dés contre lui. Mais en 90 parties, je crois que c'est la seule fois où on s'est dit qu'il y avait un objectif où on l'interdisait, quoi.
Ouais, moi je pour ce qui est d'Apocalypse World, je pense surtout que le jeu ne te dit pas ce que tu dois faire. Il ne te dit pas vers quoi aller. Alors que si on reprend hein, par rapport à Monostatos, clairement dans Monostatos, la pierre d'angle de la création de ton personnage, c'est que tu as des raisons de t'opposer au culte de Monostatos, quoi.
Et
Alors
bien
dans
sûr,
un cas,
ouais.
le jeu te définit dans les règles dès le départ un objectif comme un ou pas d'ailleurs, alors que Apocalypse World ne te dit rien. Il pose des situations initiales. Et tu te démerdes, quoi.
Ah oui, si, dernière chose, c'est que il y a la liberté d'action et la puissance d'action. C'est-à-dire, par exemple, dans Apocalypse, au début, tu as une liberté d'action dès le départ qui est assez vaste, mais
Ouais.
tu as une puissance d'action qui est faible, parce que tes personnages sont débutants, bon, même s'ils sont déjà assez badass dès le départ, et
Ouais.
avec l'expérience, tu vas gagner en puissance d'action. C'est-à-dire que ta probabilité d'atteindre le 6-9 ou le 10+ va augmenter au fur et à mesure, parce que ton personnage va gagner en puissance. Liberté d'action et puissance d'action, c'est des choses différentes. Dans Monostatos, les personnages sont très puissants. C'est des héros légendaires, mais ils sont très
Il
peu
progresse
libres.
peu, ouais. Et puis il
Ils ont
progresse peu.
une liberté d'action faible, par contre.
Ouais.
Pierre,
Mais
désolé, on est parti dans un gros
c'est
tunnel.
intéressant ce que vous dites, en sachant que moi j'aime bien penser la liberté comme l'optimisation des contraintes. Parce que tout simplement, en fait, la liberté, c'est quelque chose, on y croit, on n'y croit pas. C'est un terme qui est assez dur à définir et donc. L'optimisation des contraintes, c'est une définition qui permet au moins de savoir comment on peut agir sous cette forme-là.
Bah, le jeu, c'est
Et
la liberté dans
au
un
fond,
cadre.
exactement. Exactement. Et c'est bien pour ça qu'en fait, pour rebondir sur les exemples que tu donnais qui sont assez extrêmes, en fait, dans un premier cas, tu citais Monostatos où le cadre est très très précis sur certains aspects qui sont en fait qui tu es et c'est quoi ton objectif.
Ouais.
Et là-dessus, en fait, le personnage garde quand même une liberté extrêmement forte d'agir, parce que sous ces contraintes-là, il peut optimiser plein de choses.
Oui, le
Le
jeu ne dit
qui
pas
fait, le
comment il
comment
va
il fait,
vaincre
et où il va.
Monostatos, par exemple, quels moyens il va utiliser, quels sont ses
Exactement.
objectifs secondaires.
Voilà, et donc à partir de là, en fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup de potentialités tactiques qui peuvent être très, très intéressantes à faire, y compris pour soutenir le propos du jeu.
Tout à fait.
Pour Apocalypse World, la manière dont je perçois la chose, c'est plutôt qu'en fait, au début, les contraintes ne sont pas exprimées, mais par contre, elles émergent au fur et à mesure que chaque joueur continue, avance ses propositions et qu'elles constituent la partie. Parce qu'au
Puis
début,
que les menaces sont
c'est-à-dire,
avancées par le MJ
l'horde
aussi,
de
quoi.
rats mutants qui arrive sur la ville dans 2 jours, là, tout à coup, il y a une contrainte qui vient d'arriver, c'est survivre à l'horde de rats mutants qui arrive dans la ville dans 2 jours,
Ouais.
etc., etc. Et donc, pour moi, en fait, je pense que sur cet aspect-là d'agentivité, tout dépend en fait comment arrivent ou émergent ou sont constituées les contraintes dans lesquelles les personnages seront amenés à agir. Et là, comme ça, j'ai l'air un peu de faire le malin, je fume ma pipe et je vous laisse continuer dans le plan.
Le point suivant, on l'a déjà abordé en fait, hein, mais c'était l'immersion, c'est-à-dire quel type d'immersion on a dans le jeu tactique. Moi, c'est une immersion que je relie au flow, c'est-à-dire c'est une immersion dans le défi, dans un défi qui doit être ajusté à nos capacités personnelles, plus au-dessus de nos capacités. Et donc du coup, c'est une immersion qui prend la forme d'une concentration intense dans le défi proposé par le jeu, quoi. On peut parler aussi de boucle de gameplay, c'est-à-dire tu agis, t'es récompensé. Donc la récompense, c'est une sorte de feedback positif que te donne le jeu, qui va aussi alimenter ce flow, quoi.
Quand j'entends ça, en fait, je suis assez d'accord avec toi sur la base de mon expérience, parce qu'il y a régulièrement des parties où je suis complètement immergé dans le défi, et puis arriver à le passer, ou en tout cas se confronter, il y a des moments où quelque
On
part,
n'ira pas se coucher tant qu'on n'a pas résolu l'enquête.
c'est exactement ça, et en même temps, j'ai déjà perçu aussi, de par mon expérience, que il faut que autour de la table, tout le monde ait une certaine capacité à se mettre au niveau du défi. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui finalement ne se met pas au niveau du défi, parce que tout simplement peut-être qu'il ne s'est pas coltiné les 200 pages de règles avant la partie, ou alors qu'il ne voyait pas une partie comme étant l'optimisation de tel ou tel objectif, bah lui justement il va plus être immergé, il va regarder les autres qui s'excitent, qui s'éclatent, et en plus vu qu'on va tous être immergés, 8 heures plus tard, supposons que ce soit une partie un peu longue, il aurait mieux fait d'entrer chez lui.
Ouais.
Et moi, je reviens à quelque chose qu'on a déjà dit. Pour s'immerger dans le défi, tu l'as dit, il faut qu'il y ait un enjeu fort et qu'il soit difficile à atteindre. Mais il faut aussi que les autres propositions ludiques nous aient conditionnés à s'intéresser à ce défi-là. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des enjeux moraux qui nous poussent vers ce défi. Il faut qu'il y ait une esthétique qui nous amène à le faire,
Par
etc.
exemple, il me semble qu'il y a un Adventure Pass de Pathfinder où tu me diras, Pierre, si je dis des bêtises ou pas, où il te présente un village assez longuement. Enfin, t'es amené à côtoyer pas mal les personnages du village. Alors, je sais plus s'il y a vraiment des aventures avec eux ou tout simplement c'est des utilités. Donc, à force d'aller voir le forgeron, machin,
On
d'aller
va appeler le
voir
village
ceci,
Point de
cela.
Sable.
Tu peux répéter?
On va appeler le village Point de Sable.
Voilà.
Et en
Point de
fait,
Sable.
c'est prévu qu'au bout d'un moment, le village il se fasse attaquer par je sais plus quel méchant et qui massacre tout le monde. Et ça, c'est en fait le village. Le village, il sert de c'est la tête dans le frigo, quoi. Il sert à motiver en fait les joueuses, quoi. Une fois que le méchant il a bien massacré le village, ben là, tu vas être bien motivé pour aller mettre sur la gueule du méchant, quoi.
Alors, il y a peut-être d'autres villages dans les Adventures Pass, mais Point de Sable ou Sandpoint en anglais, c'est un village blague récurrente de Paizo, ce qui fait qu'il est présent, à ma connaissance, dans au moins trois Adventures Pass. Mais c'est vrai que le plus connu des Adventures Pass qui s'appelle des Adventures Pass qui s'appelle L'éveil du Seigneur des Runes, il commence, lui, le premier livret est intégralement là-bas. Et c'est vrai que au début, quand je l'ai fait jouer à mes joueuses, en fait, il s'amuse bien à parler tout le monde, à draguer les filles de la taverne, etc. Et puis à un moment, il y a la journée du festival, il y a les gobelins qui débarquent. Et là, tout à coup, c'est le drame et c'est assez rigolo. Ouais.
Après, moi, Julien, je vais prendre la parole un petit coup parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec ce que dit Xavier.
Il fulmine depuis tout à l'heure.
Je
Non,
me
non,
lève,
non.
je me lève et je vais te casser la gueule. Bouge pas, j'arrive.
Ouais, ok. Dis-moi où je tape, je suis là.
Je suis pas d'accord parce que il y a des modes de jeu tactique où tu peux n'en avoir strictement rien à battre de toute l'histoire qu'il y a autour et de la motivation morale, esthétique ou je ne sais quoi que tu peux introduire dans l'histoire. Je sais pas, moi, j'ai quand même eu un certain nombre d'exemples de parties de Donjon 4, par exemple, où ben globalement, quand le MJ était en train de poser les éléments d'histoire, les joueurs le regardaient et lui disaient, ouais, c'est bon, passe la cinématique, on va au combat là.
Alors, merci Julien. Julien, c'est la voix de la sagesse, c'est l'homme qui me rappelle toujours en réalité. Une fois de plus, je t'en remercie. En fait, quand je dis ça, je m'inscris dans le cadre d'un jeu long et d'une campagne. Si
Je
tu
parlais de
enchaînes
campagne
les,
aussi, hein.
ouais, ben, moi, je pense que jouer simplement à enchaîner les combats, on s'en lasse quand même
Il faut que tu varies les défis en fait. C'est-à-dire que si on se téléporte de combat en combat, c'est chiant. Si tu fais
Voilà.
combat en quête, traverser une zone piégée, recombat et ainsi de suite, là c'est plus intéressant. Tu peux
En
rester
fait,
tactique à fond, mais tu varies les plaisirs, quoi. Et du coup, pour ton immersion, c'est mieux, quoi.
ouais, mais en fait, Thomas, ça non plus, ça marche pas. C'est-à-dire que dans l'exemple que je cite, le maître du jeu en question prenait un plaisir de fou à préparer chacun des combats comme tu préparerais un scénario complet. C'est-à-dire que dans chaque situation de combat, tu avais des enjeux tactiques différents, des monstres différents, des capacités différentes, et c'était quasiment chaque combat était un puzzle à résoudre, en fait, si tu veux. Et de ce point de vue-là, alors, l'opposition qu'on peut faire à cet argument-là, et après je me tais, je vous laisse discuter, c'est que est-ce qu'on est vraiment en train de faire du jeu de rôle ou est-ce qu'on n'est pas repassé sur une sorte de jeu de figurines?
Est-ce qu'on
Parce que,
fait du descent
voilà, c'est exactement ce que j'allais dire aussi pour compléter, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, si tu ne veux faire que des combats tactiques de figurines, j'ai l'impression que à un moment, tu perds l'incarnation de ton personnage parce que finalement, tu n'es plus qu'un bloc de stats et de capacités, le but étant de les optimiser sous contrainte cette fois-ci, donc
Après,
c'est
il
très
faut
compliqué.
voir la part
Mais juste passer
d'émergence qui est
l'étape.
dans un combat de jeu de rôle, même à enfin comment par exemple le Est-ce qu'on peut, il y a beaucoup plus d'émergence, je pense, dans un combat à Pathfinder que dans un combat à Descent, parce que tu peux éventuellement utiliser le décor, faire ceci, cela, même si, bon, dans tout ce qui est 3.5, j'ai l'impression que l'émergence est muselée, par exemple, assommer un adversaire, c'est quasiment impossible. Il y a pas mal utilisé du décor, je sais même pas si c'est
Il y a
tellement
beaucoup de choses que
rentable
tu peux faire
dans
avec
un
le
MMO.
décor. Il y a des trucs trop puissants en termes d'optimisation.
Voilà, donc je
Tu peux
pense
pas
que la.
faire ça sur
Ouais.
le Tyranid.
Voilà, donc du coup, quelque part, le combat tactique en jeu de rôle, c'est jeu de plateau plus émergence.
Moi, je reviens un petit peu au propos de Julien. Je comprends qu'il puisse y avoir cet exemple-là, hein, tout à fait. Moi, les gens que je connais qui se sont éloignés du jeu tactique, ils m'ont tous dit, au bout d'un moment, le PMT, on n'en peut plus. Et le seul moyen de les ramener à une table, c'est de leur assurer que ça va pas juste être une suite de rencontres où on va optimiser son perso, mais que chaque rencontre, il y en aura peut-être moins souvent, mais elle aura du sens et elle sera pertinente dans quelque chose de plus grand. Et moi, je tenais ce propos parce que les gens de ma connaissance qui se sont éloignés du jeu tactique, ou même moi quand j'arrive à saturation, c'est quand les combats finissent par ne plus avoir d'autre réalité que le combat en soi.
Bah, c'est parce que t'es pas un vrai joueur tactique, c'est pour ça.
Ouais, bah alors ça se discute.
Ça me permet d'enchaîner sur le point suivant, si vous voulez bien,
Ouais.
qui était de dresser, parce que, et d'ailleurs ça permettrait d'être moins abstrait, je pense, de dresser une liste d'archétypes d'aventures et de défis tactiques. Alors, il y a le porte-monstre-trésor, qu'on a déjà bien élaboré. Alors, quand je parlais de porte-monstre-trésor non tactique, c'est par exemple quand, en fait, si tu joues, utilises un système simple et qu'il y a pas de défi dans le sens, je rappelle, à une époque, quand je débutais, je faisais des porte-monstres trésors, et en fait, à un moment, t'arrivais, comment, t'avais exploré toutes les pièces et t'étais obligé de faire des recherches de passages secrets dans toutes les pièces parce que sinon tu pouvais pas aller plus loin. Et donc, en fait, les passages secrets, c'était juste de la non-tactique parce que de toute façon, c'était impossible tu pouvais pas finir enfin, t'étais obligé de le faire pour arriver à la fin du donjon, faire la recherche. Et de même que tu peux faire du combat PMT qui soit non tactique parce que tu as un système trop simple pour pouvoir optimiser. Et en fait, on avance juste d'une pièce à une autre. Et c'est. Donc voilà, c'est ça l'exemple du PMT non tactique. Donc il y a le PMT. Alors au contraire, on peut faire du PMT beaucoup plus tactique. Je pense qu'il faut un système de combat étoffé, des pièces qui surprennent. Des choses qui soient facultatives, c'est-à-dire des passages secrets qu'en fait tu peux faire l'aventure sans trouver le passage secret, sauf que tu vas passer à côté d'un truc, ainsi de suite. Enfin, il faut de la surprise. Et on a le méga donjon. Le méga donjon, en fait, c'est on va introduire la notion d'écologie du donjon, c'est-à-dire que comment généralement dans le PMT, on a des monstres qui attendent dans une pièce, ils sont comme figés dans le temps. Un petit peu comme dans des vieux jeux vidéo, quoi. Et dans le méga donjon, les monstres se déplacent, il y a une écologie, c'est-à-dire que il y a certaines parties du donjon qui sont habitées par un certain type de créature. Il y a la partie acide où c'est que les monstres résistants à l'acide qui vont pouvoir y aller. Il y a la partie froide, la partie sans lumière, ainsi de suite. Et il y a une écologie, c'est-à-dire bah, comment se nourrissent les monstres. Et ben, ils vont aller manger les champignons et tout. Il y a une possibilité de comment. En fait, le méga donjon quelque part, c'est un donjon qui va rassembler tous les autres archétypes d'aventure qu'on va lister, quoi. Parce qu'avec possibilité de négocier avec les monstres plutôt que juste les buter.
Et puis en plus, tu vas aussi avoir des règles conditionnelles, c'est-à-dire que si tu te fais du bruit pour taper dans le donjon, parce que tu es à la bagarre dans une pièce A, si dans la pièce B, il y a des monstres entre guillemets alliés de ceux de la pièce A et qu'ils l'entendent, ben à ce moment-là, ils vont venir prêter renfort et à partir de là, tu vas devoir gérer plus d'adversité que ce que tu avais prévu au
Ouais, ou
début.
inversement, tu peux
Etc.
t'arranger pour que deux factions ennemies se foutent sur la gueule et comme ça, tu ramasses les pecs sans avoir combattu, quoi.
Miam miam.
Y a les intrigues politiques. Bon, voilà, est-ce que j'ai besoin de détailler plus? Je sais pas.
Ouais, non, c'est. Voilà. En sachant qu'il y a des jeux historiquement issus de la famille Donjons et Dragons, comme Birthright par exemple, qui axe vraiment ça là-dessus, quoi.
Bah, Ambre aussi peut être très
Ouais.
axée là-dessus, et elle s'inquiète pas mal si tu joues en cours, quoi.
Ouais, mais tu vois, j'ai du mal à. Enfin, je sais pas si Ambre ou L5R sont fondamentalement des jeux tactiques, quoi. Qu'on puisse faire du tactique avec, c'est une chose.
Oui.
Que ce soit l'axe principal qu'aient voulu donner les auteurs,
C'est des jeux
en partie,
profonds
bien
et
sûr, mais.
qui ont pas mal d'axes d'approche,
Ouais.
donc mais tu peux faire du tactique politique avec. Après, c'est une façon de jouer, quoi.
Pour moi, c'est des jeux qui sont assez buggés et donc en fait, il faut vraiment faire attention à comment tu construis ton perso et que tout dans le groupe, tout le monde joue un peu correctement pour que ça tourne bien en fait.
Ouais, faut se mettre d'accord,
En
quoi.
sachant que c'est des jeux que j'adore, hein. C'est un jeu L5R, quelle que soit l'édition, j'adore. Mais il reste que à chaque fois, on a toujours été confronté avec des builds de personnages qui étaient bizarres où en fait, on pouvait faire à peu près n'importe quoi en certains cas, que ce soit pour faire de la politique, que ce soit pour faire des duels ou que ce soit pour faire du combat.
Alors,
Et
on va reparler
ça
plus
dépend
tard
des éditions.
dans l'arbitrage et l'équilibrage. Ouais.
Il faut qu'on accélère alors un petit peu parce
Ouais,
qu'on est
ouais, ouais.
déjà à une bonne heure, quoi, je pense.
1h10, ouais, pour être
Ouais.
précis.
Alors, il y a les arnaques. Alors, j'ai malheureusement pas beaucoup d'exemples en fait de jeux où on peut faire des arnaques, par exemple à la Ocean's Eleven, ouais. Arnaque, braquage, où l'idée en fait c'est d'être plus malin en fait que l'adversité et de tromper ou escroquer l'adversité. Bon, je suppose qu'il doit y avoir des scénarios de ce type dans Nightcrawler par exemple.
Oui, j'imagine, oui. Je
Julien
connais
adhère.
assez mal, mais. Et? Oui?
Non, je crois que vous aviez un
D'accord.
exemple à citer, mais.
Non, non,
Pour
bah
continuer,
ouais.
pour moi, tu as aussi les jeux qui vont être des jeux entre guillemets de postier. Donc, par exemple, tu as comme objectif de délivrer le colis dans la maison là-bas de l'autre côté de la colline. Et tu sais pas ce qui va t'arriver, mais tu sais qu'il va falloir que tu sois assez efficace, réactif et improvisateur pour arriver à passer cette colline.
Ouais,
Parce
c'est pas
que
mal, ouais.
le MJ,
Oh.
il t'a préparé quelques petits trucs à passer pour arriver à rentrer dans la maison de l'autre côté de la colline.
Comme exemple, il y avait la partie de Donjon et Dragon 4 que le Grum fallait maîtriser pour la cellule où c'était typiquement une histoire de postier.
Et pour les arnaques, moi je trouve que c'est souvent un des termes récurrents d'un jeu comme Shadowrun, tu vois. Où t'es engagé par quelqu'un, mais tu sais pas qui va te rouler, mais tu sais que quelqu'un va te rouler,
Ah mais du
et
coup
tu vas essayer d'être plus malin
c'est les
qu'eux.
figurants qui essayent d'arnaquer. J'imaginais en fait des aventures où c'est les personnages qui sont les arnaqueurs.
Ouais.
Mais c'est intéressant aussi, hein, attention.
C'est compliqué parce que ça nécessite pour les joueurs d'être proactifs.
Et puis il y a une ironie dramatique un peu difficile à gérer dans le sens où je veux arnaquer les figurants, mais le MJ lui est au courant que je suis un escroc. Donc, il faut que le MJ, entre guillemets,
Soit bienveillant.
ouais, il faut qu'il soit bienveillant et qu'il fasse bien la différence entre ce que lui sait en tant que MJ et ce que peuvent savoir ses figurants, quoi.
Juste pour compléter, tu as un jeu qui s'appelle Leverage aussi, qui est sur une série, qui est basé. C'est un jeu adapté d'une série qui est basé complètement sur cette idée d'arnaque, justement.
Ils ont fait
Ok.
un jeu de rôle sur Leverage?
Absolument. Margaret Weiss, Cortex Plus, etc.
Tiens, je vais jeter un coup
Ouais,
d'œil
tiens.
là-dessus.
Alors, un grand classique aussi, c'est le jeu d'enquête.
Bien sûr.
L'appel de Cthulhu, enfin une partie de l'appel de Cthulhu, parce que c'est loin d'être que de l'enquête. Maléfice, il me semble qu'il y avait pas mal d'enquêtes aussi. Une chose que j'ai toujours
Par
rêvé de
exemple,
faire.
toutes les parties L5R où tu joues des magistrats.
Voilà. Plus récemment, Magistrat et Manigance, hein, qui est fait pour jouer des enquêtes comme les bouquins du juge Ty, donc c'est Magistrature chinoise, hein, par Macbeth et puis Romain d'Huissier. Une chose que j'ai toujours rêvé de faire, il faudrait que je le fasse un de ces quatre, c'est prendre l'intrigue d'une Agatha Christie et puis jouer sans règles et puis donner aux joueuses en fait le rôle de petite mémé et Miss Marple qui sont sur les lieux du crime et qui ont que le droit de poser des questions et d'aller fouiller des pièces, donc sans jet de dés ni rien, et puis de se laisser se dépatouiller comme ça pour trouver le coupable.
J'attends de voir le club des renards argentés mener l'enquête avec sept mémés qui vont aller voir quelqu'un en prison, sept mémés qui vont aller interroger le postier pour voir qui a déposé une lettre entre minuit et 1h du matin.
Ouais, voilà, ouais.
Mais avec une base émergente ou avec, c'est-à-dire avec quelqu'un qui sait ce qui s'est réellement passé
Ah
ou
bah
de
du
manière
coup, un
libre?
MJ en fait qui a lu le bouquin, quoi, qui a lu l'enquête d'Agatha Christie et qui va du coup transformer le roman, le déconstruire pour en faire une aventure, quoi.
Moi, ce qui me dérange souvent avec le jeu d'enquête, mais là on sort du jeu tactique, c'est le MJ a prévu une enquête, il sait comment ça va se passer, Et puis il a donné tous les indices aux joueurs et personne n'y comprend rien et on y passe 3 heures et comme le MJ veut pas péter son scénar, il donne pas la solution et on tourne en rond et on se fait chier. Et donc sur ce genre de jeu, moi ce que j'aimerais, tu vois, sur le jeu des petites grand-mères qui se baladent,
Il y a Postcase la cellule sur l'enquête là.
C'est qu'il n'y ait pas une solution qui préexiste, mais que la solution, elle soit justement découverte par l'ensemble des protagonistes en jeu. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que inexorablement, on arrive à une solution, tu vois.
Il y a la notion en fait de, comme tu as dans beaucoup de jeux vidéo modernes, c'est que d'abord je te donne des indices durs. Et puis si je vois que tu rames, bah je te donne, il y a une, comment tu y a, y a moyen de débloquer des nouveaux indices où là où le où clairement c'est plus facile à comprendre. Et puis tu peux enchaîner comme ça les quantités les indices avec au bout d'un moment effectivement les choses deviennent de plus en plus évidentes quoi.
Oui, mais là on commence à sortir du jeu tactique,
Ah
c'est-à-dire
oui,
que
mais
si à la
à
fin,
partir de quand tu es en train de donner la béquille à tes joueurs?
voilà, si à la fin il y a un gamin qui dit ah, c'est lui le grand méchant, il m'a foutu une baffe, et que
Eh
les
ben,
joueurs ils ont pédalé, ils ont rien compris jusque-là, bah est-ce qu'on est encore dans du jeu tactique, tu vois?
Alors, ensuite, il
Et
y a la course au McDo. Vas-y, Pierre.
en termes d'archétype, pour moi, il y a aussi le Battle Royale. C'est-à-dire qu'en fait,
Ouais.
t'enfermes tout le monde dans un hangar avec une hache, et au matin, celui qui aura mangé, c'est celui qui sort vivant.
Ouais, tout à fait. Il y a la course au MacGuffin, c'est-à-dire on doit récupérer un machin. Il y a d'autres factions qui veulent récupérer le machin. Faut le récupérer en eux, avec évidemment tout un tas de twists qui sont possibles. En fait, c'est pas le bon machin qu'on a récupéré. Le machin s'avère pas du tout être ce qu'on pensait que c'était au départ, ainsi de suite. Ou alors on a récupéré le machin, mais on se rend compte qu'on l'a pas fait pour les bonnes raisons, et ainsi de suite.
En fait, c'est la majorité des jeux à mission que vous êtes en train de décrire là.
La course au MacGuffin.
Non,
Ouais, il y a
non,
des choses.
l'ensemble des archétypes d'aventure tactique,
Alors, on va
ça
y venir
ressemble
parce que le
beaucoup
jeu à
aux jeux pour
mission, en
éviter.
fait, formalise ça. C'est-à-dire qu'il dit, bah voilà, on va jouer tel type d'intrigue. Ouais, effectivement, ouais. Sachant que ça peut être gigogne, c'est-à-dire que tu joues une arnaque, mais à un moment, dans l'arnaque, il va y avoir des combats. À un moment, il va y avoir de l'enquête et tout. Donc, tout ça peut se. Ça peut se. Tu peux
C'est un
faire un compte.
tiroir, ouais.
Ça peut s'hybrider. Il y a le. Comment. Traquer quelqu'un ou au contraire échapper à quelqu'un ou rechercher quelqu'un. Attrape-moi si tu peux, quoi, en quelque sorte. Et je vais m'arrêter là en ce qui me concerne. La référence la plus exhaustive que j'ai pu trouver, c'est la grande liste des intrigues de jeux de rôle de John Ross. Donc on mettra un lien où il y a vraiment tout un tas de comme ça de types de scènes et d'aventures qui sont données, quoi. Et qui sont une bonne ressource, je pense, pour le varier les plaisirs en jeu de rôle tactique. Autre chose ou j'enchaîne?
Non, je pense qu'il faut qu'on avance hein, si on
On avance.
veut aborder tout ce qu'on veut.
Ouais, ça roule, mais on n'est pas trop mal. Alors, je distinguais en fait trois grandes formes de jeu en jeu tactique. C'était, je vais dire les trois avant de les définir. C'était d'un côté le player skill, de l'autre le character build, et le troisième c'était le character skill. Le player skill, en fait, c'est quand tu joues avec tes capacités de joueuse et non avec les capacités de ton personnage. Par exemple, le MJ te décrit une pièce et c'est à toi de comprendre qu'il y a sans doute un piège à tel endroit. Quitte après à ce que, du coup, une fois que tu as compris qu'il y avait un piège à tel endroit, tu as le droit de faire un jet de recherche de piège. Mais au départ, tu as quand même ta réflexion de joueuse. On va jouer, par exemple, dans Sombre, il n'y a pas de règle, comment, il n'y a pas de règle pour la diplomatie. C'est-à-dire que si tu interroges quelqu'un ou si quelqu'un essaye de te baratiner, c'est à toi d'utiliser ton feeling, ta psychologie ou tes cellules grises de joueuse pour savoir si la personne en face de toi te ment ou dit la vérité, quoi. Ou essaye de cacher les choses. Alors ça fonctionne à la fois par le discours direct, mais aussi par le discours indirect. Si le MJ a dit que tel figurant se pince mort les lèvres, ça te donne le droit peut-être de penser qu'il faut développer sur un point, ainsi de suite, quoi. Quelque part, le summum du player skill, pour donner un exemple extrême, c'est bah, le fameux scénar de Agatha Christie là, que je vous décrivais, qui est quelque part est joué en système zéro. Le système zéro. Tel qu'il est défini par Jérôme Larry. En fait, bon, il dit qu'il y a un système zéro par table, mais en même temps, il donne un exemple à lui. Et dans son exemple, grosso modo, c'est un MJ qui décrit le décor et les figurants. Les joueurs jouent leur personnage, ils disent ce que font leur personnage. Le MJ réagit en conséquence. Et donc en fait, le player skill, tu pourrais faire, si tu fais du jeu tactique en player skill, tu pourrais, en poussant à l'extrême, jouer en système zéro, quoi.
Ouais. Pour moi, le player skill, c'est quelque chose d'important parce que ça va englober aussi bien la capacité du joueur à lui-même optimiser de tête les choses sans trop de préparation, mais ça va aussi être sa capacité, un peu comme au poker, en fait, à lire le jeu des autres par tous les petits signes qu'affichent autour de la table les autres joueurs et surtout le MJ, par
Sachant
exemple,
que
quand il était joueur.
ça peut aller en méta-jeu, si tu vois que le MJ bégaye parce que son personnage essaie de mentir, bon bah tu peux dire là le MJ il était pas sûr de lui, je pense que le figurant essaie de me baratiner quoi.
Ou même sans le jeu du MJ, il va se dire le MJ ment, non, le personnage incarné par le MJ me ment parce que en fait je connais suffisamment le MJ et quand il se comporte comme ça veut dire qu'il y a quelque chose.
Moi, ce que je retiens du player skill, c'est qu'il devient surtout prépondérant dans un système où le jeu ne te propose par défaut assez peu d'options.
Il faut des systèmes légers, du coup tu vas gérer la
Voilà.
pénurie. Je trouve que Sombre fonctionne bien en player skill par exemple, hein.
Voilà.
Je sais pas Pierre si tu te rappelles le scénario Milvaux Sombre Rouge qu'on avait joué.
Tout à fait, je me
Avec ton
rappelle bien à cette
accord,
époque.
je mettrai un lien vers ce scénario où par exemple il y avait tout un tas de figurants que tu pouvais rencontrer et il fallait que tu comment c'était à toi de deviner s'ils essayaient de te baratiner ou pas et c'est aussi toute la négociation aussi parce que il y avait pas que du bluff, il y avait aussi la négociation, essayer de faire des pactes avec eux, et là c'est pareil, ça se faisait uniquement en roleplay, et puis il y avait aussi un côté gestion de ressources, c'est-à-dire que tu avais un matériel qui était limité, tu pouvais aussi récupérer ce qu'il y avait dans la forêt, quoi. Et donc là c'est pareil, c'était du player skill, la
C'est vrai
gestion
qu'en
de
plus,
j'ai un vieux
Mario, donc.
réchaud, qu'est-ce que j'en fais?
Ouais, c'est-à-dire que j'ai peu de ressources et surtout comment je les optimise par rapport à mes objectifs, tu vois.
C'est ça, en fait, c'était un scénario en fait où tu avais des adversaires en quantité. Et le truc, c'est que quand tu regardes le système, tu vois très bien que si tu as du bol au dé, tu peux éventuellement en passer un, mais t'en passeras pas deux vivants. Et donc à partir de là, par contre, au fur et à mesure que tu te balades, tu récupères des machins et on t'apprend des mécanismes de la forêt et du scénario. Qui font qu'en fait tu peux avoir des kills gratuits si tu arrives à bien les amener et à bien coincer les PNJ en face. Et donc les choix que tu dois faire, c'est avec lesquels je négocie et lesquels je vais essayer de fraguer par les options que j'ai, par les systèmes autour. Et au final, je sais que je me souviens que Thomas, tu nous avais allégé un peu l'adversité parce qu'on était que deux joueurs, mais par contre, on avait quand même réussi à fraguer deux ou trois personnes de la forêt hors combat. Donc, par les options, on essayait d'aller jusqu'au bout. Et c'était assez intéressant parce qu'au final, tu voyais bien que au fur et à mesure que tu avançais, tu avais des options qui s'ouvraient à toi. Et en étant toujours un peu sur le fil du rasoir, parce qu'au final, je suis mort et je suis rené pour quand même arriver en shooter 1. Mon personnage est décédé, et il a ressuscité un peu après, avec encore l'air de tuer un personnage, un PNJ. Mais c'était assez intéressant, justement. Parce que tu as vraiment des choix à faire.
Et le player skill, c'est ce que revendiquent aussi beaucoup les gens qui sont dans le mouvement OSR des jeux tactiques, quoi.
Alors, c'est une partie de l'OSR, je pense. On va dire, c'est le quick primer for old school gaming. Il faudrait que je mette un. Je suis pas certain que ça soit. Entre guillemets, on va dire, c'est manifeste de ceux qui font de l'OSR pour faire du jeu tactique, on va dire. Est-ce que tu
Par
veux
rapport à
donner un
ça, pour moi.
exemple, Nicolas Dessault, quand il joue au SR, par exemple, si tu tombes, si tu rates ton jet d'escalade, ton personnage tombe, mais en fait, il va se raccrocher à une corniche, tu auras un droit à un jet de dé supplémentaire. Et donc, par exemple, Nicolas Dessault, dans son style de jeu, il joue plutôt en ambiance. Et du coup, en fait, on voit bien qu'il n'y a pas de player skill tellement, quoi.
Oui, enfin. Il faut bien comprendre que voilà, si tu joues au SR, t'as pas de compétences d'escalade, quoi. Donc tu dis je grimpe, tu décris comment tu grimpes, tu essaies de poser des questions au MJ pour savoir comment est la falaise, par où je vais
Ouais, mais
passer,
tu vas faire un
tu
jet
vois.
de tu vas faire un jet de sauvegarde, quoi. T'as un jet de
Ou un jet de dextérité, ou je ne sais pas quoi,
dé.
mais c'est pas défini par le système, et c'est en fonction des questions que tu poses, de la manière dont tu vas essayer d'optimiser la corde que tu as dans ton sac, etc., etc., que ça va influencer sur la manière dont le MJ va résoudre la situation, quoi. Mais parce que les règles ne te définissent pas la manière dont on résout l'escalade, d'une falaise, alors forcément le player skill va prendre le pas et va fortement influencer la narration, quoi.
Pierre, tu voulais réagir, je crois.
Ouais, pour moi, en fait, le player skill dans l'OSR, il y en a toujours. Parce que la manière dont je le vois, alors je dis ça, c'est un peu de manière péremptoire, je reprends, je modère la chose. Pour moi, je vois du player skill dans l'OSR, dans le sens où, vu que c'est un jeu qui se veut un peu gritty, si tu fais des choix idiots, tu vas finir par mourir. Et donc, le player skill de base que tu vas avoir dans un OSR, c'est évaluer l'adversité qui t'est opposée. C'est-à-dire que tu vois un gobelin dans un couloir, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu t'enfuis? Et en sachant que peut-être que c'est un gobelin qui est tout facile à abattre, mais peut-être que c'est en fait un gobelin level 20 biclassé barbare druide, et que en fait quand vous avez, même si vous êtes à 5 sur lui, vous pourrez pas le passer.
C'est
En
pour ça que
fait,
c'est
le player
important de ne
skill,
pas
c'est quelque
connaître les
part, c'est dans
stats de
l'évaluation.
l'adversaire aussi. Du coup, c'est important de ne pas connaître les stats de l'adversaire et de se baser sur à la fois sur la description que le MJ en fait, mais aussi sur les questions que tu poses. Attends, tu m'as dit que c'était un gobelin, mais à quoi il ressemble? S'il
C'est
a des
exactement ça.
tenues vachement étoffées, c'est peut-être un chaman gobelin niveau 20, et donc effectivement, il vaut mieux se barrer, quoi.
Voilà, et c'est pour ça que pour moi, en fait, le player skill, il y en a toujours, en fait, dans l'OSR, parce que intrinsèquement, c'est un jeu où tu reposes sur un peu ton perso tel qu'il est buildé et tout, mais tu reposes aussi beaucoup sur toi, comment tu vas te débattre par rapport à ce qui t'est opposé. Et te débattre au sens littéral, c'est-à-dire tu vas chercher tous les points d'accroche que tu peux pour capter de l'information ou des éléments de narration qui vont te permettre de survivre 10 minutes de plus.
Ouais. Ensuite, on a le character build. Le character build, en fait, c'est presque un petit peu comme quand on construit son deck à Magic. C'est-à-dire que ton efficacité, elle va dépendre de ta capacité à créer un personnage, soit au moment de la création, soit au moment de la prise d'expérience, à créer un personnage qui tabasse.
C'est de la programmation de ton personnage.
Ouais.
Ouais. Et techniquement, enfin voilà, effectivement, hein, c'est les créateurs de jeux de cartes, quand ils ont fait leur Donjons et Dragons à eux, c'est-à-dire la troisième édition, ils nous ont fait un jeu à character build. Pour
Merci.
moi, le grand premier jeu à character build, c'est la troisième édition de Donjons et Dragons. Voilà, après on aime, on n'aime pas, moi c'est pas trop mon fun, mais bon, il y a plein de gens qui aiment et ça je peux le respecter, quoi. Ce qui n'était pas trop le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, dans Donjons et Dragons, tu avais des classes, la progression de la classe, elle était figée. Hein. Quand tu joues dans les éditions précédentes, tu n'as pas beaucoup de choix sur la manière dont va évoluer ta classe et les pouvoirs que tu vas acquérir selon le niveau. Et ça, c'est vraiment introduit par la troisième édition. Enfin, voilà.
Oh, sauf si tu considères Skills and Powers de la deuxième aide, mais ouais.
Oui, mais bon, c'est. Mais le Skills and Power, c'est assez anecdotique et c'est. Je pense pas une pratique mainstream
Oui,
de
pour t'embêter, continue.
Mais tu fais bien, merci Julien, d'être
Mais
précis,
donc c'est vrai
précis.
qu'en tout cas, le DD 3, 3,5 et ses dérivés, c'est vrai que ça a vraiment introduit un système avec enfin un peu de complexité. Après, comment dire, je suis d'accord que c'est super riche parce que justement ça permet de lâcher les chevaux. Mais après, je dirais que c'est comme tout, faire que ça. En tout cas, moi, en tant que goût personnel, à un moment, j'ai envie de passer à autre chose.
Voilà, moi j'aime pas trop, mais bon, voilà, c'est tout à fait du j'aime pas, quoi.
Mais après, dans 3.5, je pense l'intérêt, c'est que le caractère build, il fait pas forcément tout. Si en face de toi, t'as un MJ qui sait remettre l'adversité comment équivalente à ce que t'es à ta puissance, eh ben du coup, tu vas aussi avoir du player skill, quoi. Et puis
Alors,
on va y venir au character skill, quoi.
merci, merci Thomas de me relancer dans cette polémique. Pourquoi est-ce que j'aime pas le character build? Parce que moi, j'ai été pendant très longtemps maître de jeu dans ces éditions-là et j'y ai beaucoup souffert. J'ai eu beaucoup de mal justement à évaluer l'adversité que je devais mettre à mes joueurs. Pourquoi? Parce que la qualité du character build va être très différente selon les builds, selon les joueurs. Selon les choix qu'ils font. Et donc, in fine, je vais avoir des joueurs à ma des deltas de puissance à ma table qui seront tels que soit je calibre mon adversité pour proposer un réel challenge au plus fort en sachant que je vais peut-être one shot les plus mauvais et ou inversement, soit j'essaie de mettre une adversité pour que les plus mauvais arrivent à peu près à faire des trucs quand même de temps en temps et les plus forts vont complètement rouler dessus. C'est très très dur sur des jeux à caractère build
Pierre,
pour
il me
moi
semble.
de gérer.
Ouais.
Ouais, en fait, j'ai une anecdote liée à ça. Je pense que tu me lançais vers ça, Thomas. Mais en fait, disons, voilà, le sujet, c'est que il m'est arrivé, par exemple, c'est vraiment, ça m'a marqué. Je suis arrivé dans une MJC et y a un gars qui me dit, avec mes joueuses, la semaine prochaine, on fait du Pathfinder. Est-ce que ça t'intéresse? Je fais, ah ouais, super, je connais et tout. Est-ce que tu me laisses faire mon personnage? C'est quoi tes contraintes? Il me dit qu'a priori, il en a pas trop. Alors je lui dis ok, j'essaye d'évaluer un peu son niveau et le niveau de ses joueuses. Et à partir de là, je construis un perso que je trouve raisonnablement fort, mais pas trop. Le soir, en fait, quand je suis arrivé, mon personnage, c'était un groupe nombreux. Il y avait six joueuses, moi inclus, deux. Et mon personnage, en fait, il valait plus que tous les autres joueurs réunis parce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment fort. Et à partir de là, la conséquence que ça a eu de manière très logique, c'est que j'éprouve aucun plaisir à avoir ce différentiel de puissance, voire ça bloque. Et lui ne m'a rien dit, les joueuses ne m'ont rien dit, mais par contre, après la partie, j'ai tranquillement. Je suis rentré chez moi et puis après, j'ai envoyé un mail comme quoi les fois suivantes, je ne viendrai pas. Parce que tout simplement, c'est simple en termes de dégâts individuels. Disons, mon personnage c'était un lanceur de sorts. C'était le deuxième meilleur soigneur, le meilleur combattant, le meilleur tank, le meilleur invocateur du groupe. Et ça n'avait pas d'intérêt en fait.
Et si tu veux, au jeu du character build, à la limite, t'as presque pas besoin de les jouer en aventure. Je veux dire, les mecs, ils délirent tout seuls sur leur forum d'optimisateur en expliquant comment, en optimisant le critique à la faux avec une force de bidule, ils font tant de. Tu vois, je veux dire, quelque part dans le character build, c'est un plaisir de créateur de jeu de cartes, quoi. Et le mec, il fait son fantasme tout seul sur mon perso machin, il fait ci, il fait ça, il fait bidule, il résiste à ça, mais quelque part, t'as pas besoin de le jouer.
Et je pense que c'est vraiment intéressant quand tout le monde est au diapason, c'est-à-dire que tous les joueuses sont axées là-dessus, et c'est le MJ accepte aussi le défi du coup en face, du coup de monter, enfin d'adapter son adversité par rapport justement à la puissance des personnages.
Je dirais que c'est vraiment très clair parce que t'as des en fait c'est pour moi c'est pas un jeu que tu fais tout seul, c'est un jeu qui est aussi intéressant en groupe pour deux points importants pour moi. Le premier point, c'est le groupe skill qui manque à ta liste. Et le deuxième point, c'est aussi que en fait quand t'es MJ
C'est-à-dire que tu
par
as fait
rapport
la
aux autres
bonne
groupes,
combinaison de personnages qui va bien, quoi.
Y a ça et après il y a aussi le fait qu'il y a des adversités qui justement sont spécialisées sur tel ou tel aspect. Et en fait, tu peux faire tout ce que tu veux en termes de character build, à un moment, tu es toujours obligé de faire des choix. Et tes choix vont faire que tu vas être meilleur contre tel type d'adversaire et moins contre tel autre.
Et je sais
Et
qu'on avait
après,
un MJ, son plaisir, c'était trouver le type d'adversaire contre lequel on n'avait rien préparé, quoi.
exactement. Et donc en fait, peut-être qu'à un moment, le MJ va te sortir des morts-vivants parce qu'ils ont plein d'immunités. À un autre moment, il va te sortir des constructs parce que tout simplement, ça a d'autres immunités, etc., etc. Ou des fois, ils vont juste sortir des sacs à points de vie avec des géants. Qui vont échanger des coups et à un moment tu vas tomber parce qu'ils en encaisseront plus que toi. Et en fait, le truc là, c'est qu'en fait, il y a plein de manières d'aborder les choses et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans ce genre de jeu, il y a un moment où tu testes ta programmation vis-à-vis de la vraie vie en sachant que tu as aussi un aspect performance parce qu'il y a plein de choix quand c'est tendu. Si tu les fais au début, au milieu, ou à la fin ou tu ne les fais pas pendant le combat, ça a un impact direct sur le résultat et c'est intéressant de l'évaluer parce que ça permet de voir. Est-ce que tu penses bien et tu progresses, et pour la fois suivante, les erreurs que tu as faites, t'en feras moins, et donc tu iras plus loin, et donc tu pourras faire plus fort.
Je me permets d'enchaîner parce que je vois l'heure qui tourne et on a fait la moitié du plan. Et pour finir, il y a le character skill. Alors pour le caricaturer, le character skill, c'est bah, si tu veux réussir l'aventure, c'est pas compliqué. Tu fais tes jets de compétences et puis le jeu a été pensé pour que tu puisses pas rater ta création de personnage. Donc suffit de lancer les dés et puis cette personne qui va faire l'aventure à ta place, quoi. On avait tendance à dire, par exemple, du jeu Cops, qu'en fait, on ne jouait, enfin, c'est Sébastien Desfineaux, je crois, qui dit ça, on ne joue pas une enquête, on joue des enquêteurs. Parce qu'en fait, l'enquête, trouver les indices et puis comprendre ce qu'il veut lire, bah, tu fais un jet de trouver les indices, un jet de comprendre le sens de l'indice, voilà, si tu fais un interrogatoire, tu fais un jet de psychologie, ainsi de suite. Alors au début, j'avais tendance à penser que le character skill c'était une sorte de parent pauvre du jeu tactique, quasiment la négation du jeu tactique. Et je suis revenu là-dessus parce que l'aspect tactique du character skill, c'est par exemple penser à utiliser ses compétences. Moi, je mettrai le lien. J'avais fait un scénario d'un jeu qui s'appelle Milvo X. C'est Milvo avec des D6 pour faire simple. J'ai décidé de jouer tactique et j'ai dit aux joueuses, je vous préviens, je suis pas votre ami. Je vous décris les situations et si vous pensez pas, et je vous demande jamais de faire des jets, c'est-à-dire que je vous demande pas de faire des jets de perception, je vous demande pas de faire des jets de psychologie. Si vous pensez pas à me demander, ah oui attends, ce PNJ il a l'air louche, je lui fais un jet de psychologie dans sa face, ou cette zone elle a l'air louche, je fais un jet de fouille. Si vous y pensez pas, et ben vous mangerez les conséquences quoi. Donc c'est penser à utiliser ses compétences. C'est-à-dire que les personnages sont optimisés pour gagner si les joueurs pensent à les utiliser, quoi.
Ouais, le character skill, il pose pas trop de problèmes en jeu tactique, moi je trouve. Il pose plus de problèmes au niveau, voilà. Enfin, tu vois, par exemple, typiquement, pendant très longtemps, à l'appel de Cthulhu, la seule compétence à monter, c'était trouver objet caché. Et tu fouillais pas les pièces, hein, tu faisais ton lancer de trouver objet caché. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme indice? Ok, pièce suivante.
Ouais, mais tu peux varier les plaisirs en te disant, j'ai trouvé objet caché. Si tu en fais un de base, ça te permet juste de débloquer les indices qui sont globalement dans la pièce. Mais il faut que tu penses à dire, attends, je vais vérifier s'il n'y a pas un double fond dans la commode. Ah oui, bah ok, tu veux vérifier ça, j'ai trouvé objet caché, ainsi de suite, quoi. Et donc
Oui, non
du coup,
mais
tu peux faire du caractère style comme ça, quoi.
ce que je veux dire, c'est que dans une logique un petit peu tactique, c'est pas trop dérangeant, mais si tu veux mettre un peu dans l'ambiance ou faire du RP, enfin il n'y a rien qui tue le plus le RP que bon, alors je vais voir le roi des gobelins et je veux qu'il me laisse passer et qu'il me file une compagnie de mercenaires. Je fais un jet de diplomatie, voilà, j'ai fait 35,
En
c'est
fait,
réussi,
l'idée,
ouais.
c'est de poser une ellipse sur un aspect du jeu pour se concentrer sur d'autres, je pense.
Voilà, là je suis d'accord avec toi. Là, tout à fait.
L'autre aspect du character skill, c'est utiliser ses jokers. Par exemple, dans Dragon de Poche, bon, j'avoue, j'ai fait une méga expérience de Dragon de Poche, mais ce que j'avais le sentiment, c'est qu'en fait, les personnages étaient taillés pour réussir l'aventure à condition que les joueuses et réussir toutes les rencontres, à condition que les joueuses pensent à utiliser leur joker. C'est-à-dire que dans Dragon de Poche, t'as des points de destin, t'as des points pour sortir des équipements spéciaux de ton slip, qui mieux mieux. Il y a tout un tas de jokers à activer, quoi. Et en fait, du coup, la tactique, elle réside dans la manipulation des jokers, quoi. Et la dernière jeu tactique en character style, c'est poser des questions au meneur qui modifie la situation pour que ton personnage puisse utiliser ses compétences. Par exemple, si j'ai la compétence se fondre dans les ombres, quand le MJ me décrit une zone, je lui demandais, attends, quelle partie est exposée à l'ombre? Si j'ai une compétence escalade, c'est pareil, je vais comment je vais dire, attends, ce bâtiment-là, il faut qu'on rentre par la porte, mais est-ce qu'il y a pas une partie de la muraille qui pourrait offrir des prises d'escalade, et ainsi de suite. Et donc là, il y a quasiment, en fait, le joueur, quelque part, la joueuse va transformer la situation fictionnelle en posant des questions pour pouvoir activer ses compétences. Et ça, c'est bien résumé dans un article de Grégory Pogorzelski qui s'appelle Rouler pour la gagne, poser des questions.
Ouais, mais tu vois, pour moi, ça, c'est une sous-famille du player skill.
Là-dessus, j'ai tendance à être d'accord avec Xavier.
Oui, bon, on peut en débattre. C'est une sorte d'hybride, je pense, entre les deux.
Ouais. Et de manière générale, hein, chers auditeurs, si vous voulez gagner en qualité au niveau de vos parties, posez des questions. Mais pas qu'au maître de jeu, posez des questions aux joueurs. Poser des questions tout le temps, voilà, ça amène du jeu, ça enrichit le jeu, ça amène de l'immersion, voilà, vraiment, cultiver sa capacité à poser des questions à la table, c'est aussi terriblement enrichir ses parties, quoi. De manière générale, hein.
Alors ensuite, on avait, sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur ces trois points-là.
Ouais, non,
Je pense
ok,
qu'on peut
cool.
continuer à avancer là.
Ouais, on avait les conditions de victoire. Alors on l'a déjà dit, mais grosso modo, le jeu de rôle tactique, c'est un peu le seul type de jeu où les conditions de victoire sont bien claires. Alors, mon opinion, je sais que Pierre divergeait un petit peu, c'était que on joue pour gagner l'objectif diégétique. Alors tel qu'il va être défini, j'avais donné des exemples au départ, quoi. Ça qui est important, à la différence du jeu moral, où on joue pour savoir à quel prix on va gagner l'objectif diégétique. Et le jeu esthétique, c'est on joue pour savoir ce qui va se passer dans la course à l'objectif.
Ouais, et
Et ben en fait, alors le truc, c'est que
what?
pour moi, déjà, en fait, là où je pense qu'il faut nuancer la chose,
Ouais.
c'est déjà dire que les conditions de victoire sont bien claires dans le jeu tactique, c'est pas toujours le cas. Alors, parce que tout simplement, pour moi, il y a quand même tout un aspect d'objectifs qui vont être fixés, qui vont pas forcément justement être exprimés clairement dans la diégétique. C'est-à-dire que peut-être que dans le scénario, il y a des points de. Il y a des actions à cocher ou pas, qui vont avoir des conséquences plus tard dont les personnages n'ont pas connaissance. Et donc, ils vont faire des choix pour l'avenir sans le savoir. Ça, c'est déjà dit.
Des missions secondaires que
Donc,
tu peux
par exemple,
avoir.
s'ils aident à traverser la petite vieille pour aller poster le truc, pour aller poster son enveloppe à la poste, eh ben, en fait, son enveloppe, c'était un truc qui aura des conséquences pour que plus tard, deux scénarios plus tard, dans le quartier, finalement, il y a eu la construction d'un square avec des enfants qui jouent dedans, ou pas. Je donne un exemple un peu comme ça à la volée, donc désolé si ça fait
Non, mais.
un peu foutraque. Après, pour moi, toujours aussi, c'est par rapport à ce que tu disais, il y a le jeu tactique et il y a aussi le joueur tactique. Et le joueur tactique, lui, il a ses propres objectifs qui, eux, sont des fois exprimés, des fois pas exprimés. Et ça, c'est comment dire, pour le dire, dans les situations qui sont des fois vraiment particulières, s'il y en a un qui veut être le plus gros barbare autour de la table, c'est son objectif. Et rarement, il va le dire en disant, regarde, c'est moi le plus gros barbare. Mais il reste qu'il va tout faire pour que ce soit lui le plus gros barbare à la fin, y compris essayer justement d'être classé plus haut que les autres.
Clairement, dans un jeu tactique, il y a des cibles, quoi. Voilà, il y a des points à atteindre et tu vas être récompensé pour ça. Tu y
Quelque
arriveras ou
part, du
pas.
coup, les conditions de victoire sont de moins en moins claires au fur et à mesure que le nombre de cibles se multiplie, quoi.
Oui, pas forcément.
Pour moi, c'est au début, il y a peut-être des cibles qu'on ne connaît pas. Donc,
Oui,
tu n'en as pas de
voilà.
connaissance. Et en fait, c'est pour ça que je continue à. J'agrée avec ce que tu dis sur les conditions de victoire. Je dirais que, par contre, dans le jeu tactique, ce qui va pouvoir le rendre des fois un peu frustrant, c'est que, y a des joueurs, y a des joueuses autour de la table qui vont optimiser des objectifs dont les autres n'ont pas connaissance et qui donc ne vont pas comprendre pourquoi. Et ça peut les frustrer, elles, surtout si ça va en compte de leurs objectifs.
Il y a un truc très rigolo, si on parle de la frustration des joueurs dans le jeu tactique, c'est d'empêcher les joueurs de tuer un PNJ. C'est-à-dire qu'ils pensaient être sur la confrontation finale, ils pensaient l'avoir enfin attrapé, ils pensaient enfin pouvoir le tuer, et puis bah, soit ça se goupille mal et le système fait qu'ils n'y arrivent pas, soit il y avait un petit twist du MJ qui avait prévu que le mec pouvait se barrer à telle condition, et le mec se barre, et
Voire
là
même
ça.
sans condition, hein. Moi, je sais
Voilà,
qu'à une
voilà.
époque, j'avais fait un donjon, il y avait un méchant récurrent, et à la fin du combat, c'était à chaque fois, pendant plusieurs combats, quand il arrivait à un point de vie, il se téléportait, le point, et c'était impossible d'empêcher ça, quoi.
Et ça génère de la frustration.
Mais c'était fait exprès, c'était pour que j'avais prévu qu'à la fin, il y aurait un vrai dernier combat contre lui, où il aurait bien pexé, et cette fois-ci, il avait plus de téléportation, et je savais que les joueuses avaient accumulé de la frustration entre lui pour que le dernier combat soit bien tendu, quoi, entre guillemets, quoi.
Voilà. Et donc, ce qui frustre les joueurs dans le jeu tactique, c'est de les empêcher d'atteindre leur objectif.
Voilà. Mais si tu l'empêches tout le
Empêcher
temps, il y a
d'atteindre.
un moment, bah, effectivement, tu vas nuire à l'agentivité
Bien sûr.
des joueuses, quoi.
Ouais.
Expérience et récompense, bon, on l'a déjà pas mal dit, hein, grosso modo, ces deux aspects qui sont, je pense, importants dans le jeu tactique. Je vais renvoyer à l'article récompense de Mark Jung. Expérience et récompense, c'est à la fois deux choses qui peuvent être diégétiques dans l'histoire, c'est-à-dire le personnage gagne en expérience tout simplement parce qu'il connaît mieux le terrain, quoi. Et récompense diégétique, ben c'est on va lui donner la responsabilité d'un fief, il va récupérer des objets magiques, il va avoir des alliés, ainsi de suite, ou même il va avoir des choses qui ne rapportent rien, des pures médailles de fierté, par exemple le village fait une fête en son honneur, tu vois. En théorie, il n'est pas plus puissant que ça, mais il a une récompense quand même, quoi. Et on a des récompenses qui sont plutôt extra-diégétiques, techniquement, c'est tu passes à un niveau. Des fois, il y a même des, il y a certains jeux qui expliquent assez mal. Dans certains jeux, il y a assez peu de corrélation entre l'aventure et le passage de niveau. À part que, ouais, t'as réussi une mission, du coup, tu débloques des pecs et tac, d'un coup, tu débloques une technique de combat alors que tu t'es jamais entraîné pour l'avoir, quoi. Un peu comme
Ouais.
si c'était de l'inné, quoi. Et puis c'est juste débloqué par ta gloire ou par
Non, c'est pas ça, c'est que en fait il y a plein d'ellipses et quand
On
tu
ne joue pas à
joues,
l'entraînement, quoi.
voilà, on joue pas l'entraînement. Donc de
Mais
même que
dans ces cas-là, le
dans un
mieux,
jeu de
c'est
rôle, je
d'ajouter
connais personne
des
qui va
personnages
tricher, tu vois.
qui ne fassent que s'entraîner, tu vois. Tu pourrais presque tricher en disant, non, avant, bah, comme dans le il y a l'épisode de, oh merde, South Park où il joue à World of Warcraft. Et en fait, il passe des heures et des heures à tuer des sangliers pour avoir des pecs pour enfin atteindre le niveau où ils vont pouvoir se farcir le méchant. On pourrait envisager, si on poussait le vice, à jouer la même chose en jeu de rôle, quoi.
Oui, enfin,
À
faut.
farmer en fait du pex jusqu'à avoir peut
Mais
jouer
ça.
que de l'entraînement en fait
Mais.
jusqu'à avoir le niveau requis, quoi. Quitte à faire
Mais.
une ellipse. En plus, en jeu de rôle, on peut faire des ellipses, contrairement aux jeux vidéo. On
Mais
va
oui.
dire, on va s'entraîner pendant 50 ans et après on joue.
Oui, non,
Il faut
mais.
donc ton personnage ne vieillit pas, donc il faut avoir ton demi-plan personnel qui permet qu'il y ait ces propriétés-là.
Voilà, ouais.
Mais clairement, dans le jeu tactique, tu fais une ellipse sur tous les trucs, sur tout ce genre de choses. Donc, de même que moi, en jeu de rôle, je connais personne qui va pisser. J'ai jamais vu un type dans la bas. Enfin, s'il a
Oh
pas
là là,
une.
Xavier, paranoïa. C'est le jeu par essence où quand tu sors, tu vas aux toilettes, tu sais pas si tu vas ressortir.
Oui, non, mais d'accord, mais tu vois, qui a joué s'il n'y avait pas une raison d'enquête ou d'intrigue ou de coup fourré, quel est le maître de jeu qui a dit, bon, vous faites des tours de garde au camp, ok, d'accord, bah Bob, tiens, t'as envie de pisser, ok, je vais pisser, très bien, bah voilà, t'as pissé.
Alors
Poursuivant.
quand je développais Empreinte et Horla, j'avais une notion de proposer des missions aux personnages, des petites missions ponctuelles qui rapportaient des pecs une fois qu'elles étaient faites, et notamment lors des bivouacs, j'avais la mission aller faire caca dans les bois. Et donc du coup, si le joueur allait faire caca dans les bois et qu'il en revenait vivant, il gagnait des
Oui, mais
pecs.
c'était un prétexte à ce qu'il se passe quelque chose dans l'histoire.
Bien sûr, bien
Moi,
sûr.
je parle de choses que tu vas passer en ellipse parce que concrètement, il ne se passe rien. Je veux
À
dire,
moins
tu vas
de,
juste pisser, voilà, et
y avait un
t'énerver.
débat, il y avait un débat dans la scène OSR justement pour jouer l'entraînement, le faire de façon roleplay, l'entraînement, le repos, avec le prêtre qui fait ses prières, avec le barbare qui jongle avec des rondins, ainsi de suite, quoi.
Ouais, mais que ces gens-là aillent faire du GN, ce sera très bien, ils s'éclateront.
Et l'autre récompense extra-diégétique, par exemple, c'est dans Légende de la Garde où à la fin, bon, c'est accompagné de points qui permettent d'augmenter ton personnage, mais on désigne le meilleur role-player, le personnage qui a le mieux atteint son objectif, celui qui a fait le jet de dés décisif, des sortes de médailles en fait.
Ouais, bah oui, pourquoi pas, hein. Je veux dire, moi j'ai vécu ça pendant très longtemps, dans des comment ça s'appelle, dans des tournois de jeux de rôle où tu étais évalué, où il y a des gens qui passaient pour trouver qui était le meilleur joueur, qui machin, avec des juges, des bidules, et puis les gens
Ouais,
avaient des
j'ai connu ça
récompenses.
aussi, ouais.
Bon, pourquoi pas, moi j'ai jamais trouvé de système où qui soit réellement impartial ou qui récompense vraiment les gens qui me paraissaient bons, donc bon, voilà.
Bien
Mais
sûr, là l'idée c'était de dire que ça existait.
voilà, ok, cool.
pour donner quelques variations par rapport à ça, en termes de récompenses extra-diégétiques, il y a naturellement atteint les objectifs, qui en soi est une récompense. Mais par exemple aussi, moi je sais qu'il y a deux, trois parties où quand je joue un soigneur sur un groupe, en fait, où ma vraie récompense, c'est que mon groupe il tienne debout. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à éviter qu'il tombe dans un combat, ou alors que j'arrive à les remonter assez vite quand il meurt.
Ou que ton groupe te félicite aussi. C'est ça
Mais
aussi
pour me dire,
l'extra-diégétique.
on va
Dire, ah ouais,
naturellement
bah
se
Pierre, là,
congratuler à
t'as
la fin si
assuré,
on
tu
a
nous as
réussi à
sauvé la
survivre à
mise, quoi.
au truc. On va naturellement se congratuler à la fin si on survit. Le truc, c'est avant tout, c'est de gérer l'érosion de. En fait, comment dire, il faut voir ça comme une gestion des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent tous en pleine santé. Et au fur et à mesure des coups qui s'échangent, bah, les barres baissent. Et à partir de là, moi, c'est comment je vais gérer au niveau tactique l'équilibrage entre soigner A ou soigner B, soigner C, soigner D, et ressusciter A parce qu'il vient de tomber, ou quoi que ce soit. Et donc à partir de là, en fait, je sais qu'à un moment, j'avais une énorme frustration parce que mon personnage, j'arrivais pas à les remonter assez vite Donc ils avaient, je leur mettais vraiment la pression, où ils devaient finir le combat en deux ou trois rounds, parce que le quatrième round, souvent, j'arrivais plus.
Et on a,
et donc,
on
en fait, arrive, il y a vraiment une question comme ça de play. Là, c'était vraiment un character skill, hein, je pense.
Ouais. On en arrive à la notion aussi de qui est très importante de jeu tactique, de gestion des priorités. C'est-à-dire que tu as plein d'options de jeu et il faut que tu discrimines quelles vont être les actions prioritaires pour s'en sortir, quoi.
Et c'est ça la gentilité.
Ouais. Ensuite.
Mort du perso ?
Mort du personnage. Alors, la mort ou la sortie du personnage. Hein. Il faut qu'elle soit possible. C'est-à-dire que si tu fais une partie de jeu de rôle où les personnages sont immortels, soit parce qu'ils sont physiquement immortels, soit parce qu'ils sont narrativement immortels, c'est-à-dire que le MJ s'arrange pour qu'ils meurent jamais, il va falloir que tu t'accroches pour proposer des défis qui soient valables. C'est-à-dire la mort du personnage, elle valorise le défi, la possibilité que les personnages meurent. Et il faut que ce soit une possibilité illustrée par des faits, c'est-à-dire que si les personnages meurent jamais, on va se dire bah en fait la difficulté était trop faible, on s'est pas amusé parce que personne n'est mort, quoi. J'exagère peut-être un peu, mais et cette mort,
ça, c'est
elle est
dans les jeux de combat.
Oui. Et du coup ça peut être remplacé par la sortie, quoi. Si on fait un jeu politique, le fait que ton personnage soit déshonoré et soit obligé de se retirer de la scène politique, il faut que ce soit possible, par exemple, quoi.
Ou que si tu joues des marchands, que tu sois ruiné, ou
voilà, ou des flics que tu démissionnes, ou que tu passes ripou, ou que tu te drogues parce que t'arrives plus à tenir le stress, ainsi de suite.
La mort, elle peut être métaphorique. Ouais, elle a pas besoin
que tu deviennes fou. C'est intéressant si cette mort est rentable. Par exemple, je trouve que dans les 5 cas, on peut récupérer les pecs des persos précédents. Tu peux récupérer le loot, soit directement tu le récupères avec ton nouveau personnage, soit c'est ton groupe qui te le récupère, mais ça dépend. Généralement, il y a une sorte de convention tacite qui dit que ouais, je récupère le loot du personnage qui est mort et puis je vais le donner au nouveau personnage, quoi. Donc c'est et on peut aussi récupérer l'expérience du mort. Je parle pas des points d'expérience, je parle de l'expérience, c'est-à-dire on va retrouver son journal, par exemple. La mort aussi est rentable si tu peux créer un personnage plus optimisé. Tu te rends compte que ton personnage est mort parce qu'il était sous-optimisé ou parce qu'il était optimisé au départ, mais la situation a évolué de telle façon que maintenant il faut partir sur un autre type de personnage.
Thomas, est-ce que le fait que ta mort dans ce cas-là soit rentable, ça désamorce pas l'aspect tactique de la situation justement? Parce que si tu peux pas perdre, globalement, bah, t'en as rien à foutre de jouer au mieux de tes possibilités puisque tu vas pouvoir refaire un perso derrière.
C'est une bonne question.
Potentiellement plus balèze.
Et du coup, il y a le one shot.
Tu auras optimisé le truc, tu meurs au bon moment pour faire encore plus puissant après.
Ouais, ouais. Le one shot va dans ton sens, Julien, parce que souvent dans le one shot, on n'a pas le temps de refaire un personnage. Ou alors, dans Sombre, on a le temps, mais en général, tu récupères pas un vrai personnage. Tu récupères un PNJ. Même la plupart du temps, tu récupères un méchant. C'est-à-dire que tu continues à jouer, mais t'es plus dans la tactique, t'es juste participant, quoi. Et donc du coup, là effectivement, on dit non seulement ton personnage peut mourir, mais s'il meurt, c'est pour de bon, c'est-à-dire que t'en fais pas un nouveau.
C'est-à-dire que plutôt que parler de mort de personnage, il faudrait parler de sanctions. Dans le jeu tactique, il faut que le mauvais jeu soit sanctionné.
Du coup, il peut y avoir plein de sanctions diégétiques. Ton personnage flic fait le con, eh ben, il se prend un blâme, ou alors il a les boeufs carottes aux fesses, ainsi de suite.
Voilà,
Moi, je parlerais d'échec, en fait. Plutôt que de sanctions, je parlerais d'échec.
Oui, mais un échec sans...
Il y a des conséquences, si tu veux.
Voilà, donc une sanction.
Non, c'est pas nécessairement une sanction. Parce qu'une sanction, c'est ça. Il y a les deux, d'accord ? La sanction, si tu entends dans le sens « tu as mal joué, tu es puni », ok, c'est une façon de voir. L'échec, c'est « j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai pas réussi », bon ben voilà, ok, c'est ça qui donne la possibilité de rater.
J'ai pris la mauvaise décision,
voilà, j'ai fait
confiance au PNJ à qui il fallait pas faire confiance.
Voilà, ça veut pas dire que je vais être puni, ça veut dire que j'ai juste pas été assez bon, c'est pas la même chose. Ce qui peut te pousser à essayer d'être encore meilleur la prochaine fois, alors que la sanction va te pousser à te dire « bah merde, j'ai fait une connerie ».
Ouais, mais tu vois, si on est dans le contexte de...
Il y a une notion aussi diégétique, diégétique et extra-diégétique. Est-ce que c'est l'univers qui te punit ou est-ce que c'est le MJ, quoi?
Oui. Mais tu vois, s'il y a un échec, il faut qu'il ait des conséquences. Et à partir du moment où il a des conséquences, quelque part, c'est une sanction.
Oui, mais on pourra en discuter longtemps.
Tout à fait, ouais.
n'a pas grand intérêt.
Ouais, alors moi je vous avouerai que toujours par mes anecdotes de vieux rogaton, mais quand on jouait à Magna Veritas, quand on faisait une partie, à la fin, en fonction du nombre de choses pas très catholiques qu'on avait fait, chaque joueur autour de la table est coplé d'un certain nombre de mois où on était affecté à la poste à trier les colis. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le truc qui était intéressant, c'est que surtout il y avait une hiérarchisation. Il y avait un ordonnancement entre celui qui avait le moins merdé et qui restait moins longtemps à chercher ses colis, quand celui qui avait fait beaucoup plus de choses un peu pas catholiques, lui par contre il pouvait passer plus de temps à la poste à obéir et à chercher et à creuser dans les piles de colis. En fait, pour conclure sur ce point-là, en fait moi ce que je pense, c'est que indépendamment d'une sanction noire ou blanc, c'est-à-dire mort ou vivant, ou échec ou réussi, souvent, en fait, ils ont la vision la plus fine et la plus pertinente pour moi, c'est qu'il faut arriver à une hiérarchisation. C'est-à-dire que, pour élargir un peu le sujet, le jeu tactique, c'est de l'optimisation d'objectifs. Donc, à partir de là, en fait, on est dans le monde très rationnel, vu qu'en fait, le but, c'est de par la rationalité d'optimiser un objectif. Donc, à partir de là, la vraie sanction, c'est, ils ont comment dire, la vraie sanction au sens du jugement. C'est l'ordonnancement du monde, puisqu'on est dans un monde logique, on sait qu'il y a des solutions qui sont meilleures que d'autres.
Ok. Est-ce qu'on peut passer au point suivant?
Alors, une dernière chose là-dessus, c'est il faut accepter dans un contexte tactique que c'est vrai que là, je rejoins Julien avec le côté un peu négatif du mot sanction, parce qu'il faut que l'échec apporte de nouveaux objectifs intéressants. C'est-à-dire que
Alors en
à la
théorie, sanction
fois.
c'est neutre, hein. Ça peut être à la fois, des fois ça peut être positif une sanction. Le terme
Oui.
sanction, en fait, ça veut dire il y a sanction négative et sanction positive. Ça veut
Et
dire qu'il faut aussi qu'il y ait des choses positives qui se passent quand t'as, entre guillemets, bien joué.
donc pour moi, toute la subtilité, je dis pas que j'y arrive, hein, c'est de taper un petit coup sur les doigts des joueurs en leur disant, bon bah ça, vous l'avez raté, donc ça aura des conséquences, mais ça va aussi ouvrir des possibilités. Pas celles que vous attendiez, mais ça va vous débloquer quelque part de nouveaux objectifs. Et en ce sens, peut-être que la mort du personnage est la plus mauvaise des sanctions parce qu'elle est terminale. Là où vous avez perdu, vous êtes tombé inconscient, etc. Bah maintenant, par exemple, plutôt qu'être mort, bah t'es prisonnier. Ou tu es contrôlé par le méchant sorcier bidule. Ou tu vois ce
Justement,
que
le
je veux dire?
personnage revient sous forme de zombie ou de nécroliche, et là, tout à coup, ça devient autre chose.
Voilà, enfin oui, c'est extrême, mais pourquoi pas?
Non,
Et en ce
chaque
sens,
sport de base risque ça.
quelque part, la mort du personnage, c'est la sanction la moins intéressante parce qu'elle est terminale. Parce qu'elle peut ouvrir des possibilités si ça va obliger le reste du groupe à aller chercher une résurrection, négocier
Ouais, puis
avec des prêtres,
tu
etc.
prends le risque aussi que la joueuse quitte la campagne parce qu'elle est
Oh.
dégoûtée d'avoir perdu son perso fétiche, quoi.
Voilà, sauf si elle est tellement à fond et elle vit tellement bien la quête des autres pour la ramener à la vie telle qu'avant ou lui amener son potentiel. Mais disons que c'est une sanction qui est souvent assez dure à faire évoluer la mort.
Pour moi, la joueuse qui voudrait arrêter la campagne sur le motif que son personnage est décédé, je pense qu'il faut aussi discuter avec elle parce que, y a quand même un sujet.
Il n'y
Ça
a
me met
rien à
mal à l'aise en fait.
discuter.
Ça
C'est
me met
pas
mal
une
à l'aise.
joueuse tactique, c'est tout. Qu'elle dégage. Voilà.
Comment dire, ça reste une joueuse. On a partagé plein de moments avec elle. C'était sympathique. Et comment dire, c'est pas parce que le personnage est plus là que ça restera moins sympathique avec d'autres personnages.
Mais c'est ça l'erreur. Quelle idée de jouer avec ses
Ouais.
amis.
Mais on peut faire. Je pense qu'on peut faire du jeu tactique avec, par exemple, un contrat tacite que les personnages sont immortels. Hein. Ça peut être envisageable.
Mais il faut que ce soit très clair. Hein.
Et
Il
on va
faut
y
que ce soit
retrouver
très
le
clair.
défi ailleurs, quoi.
Il faut que ce soit très clair dès le départ. Parce que moi, si je m'en aperçois au cours d'une partie, c'est clair, je me barre. Je me barre pas parce que je suis mort. Je me barre parce que je ne peux pas mourir
Tu
dans un
vois,
jeu tactique.
il n'y a plus de challenge, ouais.
Voilà.
Moi, je te coupe la tête et je prends le quickening.
Alors, structure du jeu de rôle tactique. Je me permets d'enchaîner. On avait donné des types d'aventures tactiques. Là, je vais plutôt rentrer dans l'aspect technique-mécanique. Généralement, dans le jeu tactique, il faut qu'il y ait une autorité, donc jeu, scénario, MJ, qui va incarner l'adversité. Alors du jeu tactique sans MJ, est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Bon, on fait des descents. Comment? Je crois il y a plusieurs jeux de plateau type donjon qui peuvent se jouer sans asymétrie, c'est-à-dire que les mouvements des monstres sont un peu automatiques. Warhammer Quest par exemple, Warhammer Quest, on peut jouer sans MJ, mais c'est en mode jeu de plateau. De
Je vais
la comment
t'interrompre,
jeu de rôle
Thomas.
tactique sans MJ, je ne sais pas si c'est possible. Il y a la notion de choix informé ou pas informé, hein, c'est-à-dire qu'on donne des informations sur les conséquences possibles et on laisse les joueuses traiter. Alors on peut faire non informé, mais dans ces cas-là, il faut quand même qu'il y ait possibilité pour les joueuses de deviner les conséquences, au moins un minimum. Il faut que chaque problème ait une ou des solutions. Alors soit solution prévue à l'avance, soit permettre que ça soit laissé à l'imagination des joueuses. Et l'idée, c'est de proposer aux joueuses une analyse de risque. On peut faire de la course contre la montre. Alors soit la montre méta, c'est-à-dire bah écoute, quand on sera arrivé à minuit, la partie la bombe va exploser. La minuit dans
On
minuit
comprend dans 15 minutes que le podcast sera fini.
ouais voilà par exemple. Ou ça peut être une montre diégétique, c'est-à-dire au bout de 20 rounds la bombe explose par exemple. On peut faire des scénarios toboggans. Dans ces cas-là, c'est le MJ qui va fixer les objectifs et il prépare une adversité sous forme de puzzle à vaincre. Ou alors on fait des bacs à sable, où là c'est plutôt comme on a dit, les joueuses qui se fixent les objectifs. Et là, le MJ va préparer une arène avec plein plein de défis différents, quoi. Alors Julien, tu disais que c'était rapproché du podcast sur les strats au niveau de jeu. Donc on mettra ça dans la biblio en podcast des Voix d'Altaride. Le point suivant, c'était du coup dans le jeu esthétique, ce qui est mis en question, c'est l'équilibrage. Alors, une tentative d'équilibrer les rencontres avec les facteurs de puissance dans Donjon 3.5. Des fois, ça marche pas. Si les joueurs sont trop forts en character build, l'équilibrage est complètement raté. L'OSR, notamment le Quick Primer, prend le parti justement de ne pas faire du tout d'équilibrage. Dans telle pièce, il y a un dragon. Si les persos sont niveau 1 et rentrent dans la pièce, ils vont juste se faire cramer. C'est à eux de bien écouter aux portes avant d'entrer dans les pièces. Et du coup, on a aussi, est-ce que l'équilibre est quelque part opposé à l'émergence et que c'est ces deux forces, entre guillemets, qui combattent dans une partie? Équilibrage, et on a l'arbitrage, c'est-à-dire, soit c'est les règles qui arbitrent, c'est-à-dire que les situations peuvent être équilibrées ou non, c'est-à-dire on peut avoir un monstre qui soit numériquement 5 fois plus fort que nous en face de nous, mais les règles en tout cas vont bien préciser comment ça se passe et vont servir d'arbitre. Ça peut être le scénario. Souvent c'est l'AMJ. Moi je sais que par exemple l'équilibre, entre guillemets, le problème de l'équilibrage, je l'avais géré d'une certaine façon, c'est-à-dire que j'avais des personnages, des figurants à carac flottante. Et c'est-à-dire qu'au cours du combat, je changeais les caracs des figurants, par exemple si je trouvais que le combat était trop facile ou au contraire trop difficile. Après on peut se dire, bah ouais, mais du coup l'arbitrage par le MJ tue le jeu tactique. Et on a aussi l'arbitrage par la joueuse experte, qui va juger
Pour moi, la joueuse experte,
de
c'est
la
surtout
crédibilité
quelqu'un de mal
des
élevé, c'est
situations.
tout.
Pardon, Pierre?
Pour moi, la joueuse experte, c'est surtout quelqu'un de mal élevé, c'est tout. Ou alors un contrat social mal passé, mais
Bah ça
pour moi,
dépend,
ça,
sauf si au
ce n'est
contraire
pas
on
un
a
fait
décidé
naturel de la chose.
tu peux avoir décidé de t'appuyer sur elle. Par exemple, si le MJ connaît mal les règles et en fait il sait très bien qu'il y a telle joueuse qui connaît les règles beaucoup mieux que lui et tacitement ou même explicitement on lui délègue l'arbitrage sur certaines choses, quoi.
À mon sens, tu vois, c'est le MJ qui arbitre simplement, avec son pantin joueuse expert. Mais en fait, ça, dans les faits, c'est pas la joueuse experte qui arbitre d'elle-même. C'est le MJ qui, par délégation, arbitre.
Ouais, du coup c'est du MJ multiple si on veut quoi. Il va effectivement, ouais. C'est bien vu.
Moi, la joueuse experte, je la vois plutôt comme celle qui ramène sa fraise tous les 4 matins et qui est mal élevée.
Ouais, d'accord. Alors, pour finir avec mes points, et comme ça on pourra passer au point de Pierre, on avait les hybrides, tactico-moral. J'ai tendance à dire, c'est comme si on jouait l'art de la guerre de Sun Tzu, ou comme dans la campagne Qin, où grosso modo c'est un roi qui décide de mener une guerre sanglante et sans merci pour unir les royaumes combattants et en fait apporter la paix, où en fait on a un objectif qui moralement est extrêmement teinté. Et du coup, l'idée, c'est de voir quelle tactique on met en œuvre pour atteindre cet objectif. Ou alors, l'objectif est moralement neutre, mais c'est les moyens qui vont être utilisés, qui vont être teintés, avec notamment des choix entre des solutions chaotiques bonnes ou au contraire des solutions loyales mauvaises, ainsi de suite. Le tactico-esthétique, c'est notamment les jeux où en fait c'est la qualité de ta description qui va améliorer l'efficience de ton personnage. Je me posais la question s'il existait un tactico-social. Alors il y a, je vous renvoie un article de Grégory Pogorzelski qui s'appelle Tout le monde peut avoir de gros bonus. Le plus difficile, c'est de les garder. C'est-à-dire que le tactico-social, et là ça va être une bonne façon d'embrayer sur le point de Pierre. C'est souvent le fait que les joueuses jouent tactique, mais elles vont avoir à cœur que ça n'empiète pas sur le plaisir du reste du groupe, notamment avec un personnage qui prendrait trop l'avant sur les autres, hein. Typiquement ton exemple où tu avais créé un personnage trop puissant par rapport au reste du groupe, et que du coup socialement ça pouvait pas matcher. Avec l'idée aussi, par exemple, le minimax, entre guillemets, le bon minimaxeur, c'est celui qui minimaxerait dans entre guillemets, les compétences de sa classe et qui essaierait pas d'être un personnage polyvalent qui peut tout faire mieux que les autres personnages, quoi.
Ou qui aiderait les autres, Thomas.
Oui, aussi.
On va dire qui minimax pour être à un niveau de puissance cohérent avec le reste du groupe. Parce que, comment dire, en fait, avoir des personnages versatiles qui peuvent se remplacer les uns les autres, entre guillemets, en termes de minimaxage de groupe, c'est vraiment important.
Oui.
Donc, en tout cas, mais comment dire, on comprend tout à fait ce que tu veux dire et c'est bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque part, le minimaxage, c'est un sujet de compétence de construction de personnages. On peut le voir comme ça. En tout cas, on peut le penser comme ça dans ton exemple. Et ce qu'il faut, c'est que, il y ait un level playing field. Donc un niveau d'intervention, un niveau de jeu qui soit équivalent autour de la table, parce que sinon c'est vrai que s'il y en a qui sont soit trop forts, soit trop pas au niveau, ben à un moment ils s'amusent pas et toi tu t'amuses plus en fait. En tout cas moi je suis plutôt ce genre de personne, c'est-à-dire
Alors,
qu'autour de la table quand à la fin il y en a un ou deux qui font grise mine parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ben faut s'interroger pour changer la donne.
je renverrai au podcast social où on parle assez longuement de cette joueuse sociale tactique, justement, avec comment, quand on est très doué en tactique, on peut faire pour amener le jeu vers le haut et que tout le monde s'amuse, notamment en déléguant aussi les tâches à faire, quoi, aux autres joueuses, quoi. Et du coup, on embraye sur Pierre, sur ta notion de joueuse tactique.
Exactement, merci beaucoup Thomas. Donc moi, dans la continuité de tout ce que tu as présenté, en fait, pour moi, un point important, c'était aussi quand tu te positionnes du point de vue de la joueuse qui cherche à faire de la tactique, en fait, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se positionner pour optimiser des objectifs. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que comment elle va optimiser, et avant tout, avant de traiter de comment elle va optimiser, c'est quels sont les objectifs qu'elle pourrait choisir d'optimiser. Alors, je peux pas tous les lister, mais je peux lister différentes structurations de comment on peut classer les objectifs. Donc voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que bah déjà, pour moi, il y a les objectifs qui sont les objectifs des personnages, et il y a les objectifs qui sont des joueurs. Et ça ne peut ne pas être les mêmes. Par exemple, je vais raisonner par exemple pour essayer d'être un peu clair à cette heure avancée pour les auditeurs, mais c'est que tu peux avoir un personnage qui a comme objectif de ne pas se faire découvrir. C'est-à-dire que c'est peut-être un homme rat maquillé avec un masque. Et en fait. Il vit au milieu des humains et comme son objectif à lui premier en tant que personnage, c'est de ne pas être découvert pour continuer à vivre au milieu des humains. Quand l'objectif des joueurs, ou d'un joueur en tout cas, peut être par exemple de résoudre l'enquête, de survivre à la fin du donjon, de prendre en main son destin et d'être plus maître de son destin, c'est-à-dire avoir plus accumulé plus de puissance dans la diégèse pour être maître de son fief, général, quelqu'un d'important dans le monde à qui on demande. Plutôt que quelqu'un à qui on ordonne.
Si tu me permets, Pierre, donc ça c'était ce que tu appelais les objectifs individuels contre les objectifs collectifs.
Ça,
Tu
c'était
parlais
personnage
aussi.
versus joueur. Et là, j'allais passer vers
Ok.
individuel collectif.
Parce que tu avais des choses comme qui étaient intéressantes, des exemples d'objectifs qui étaient du coup carrément extra-diégétiques, qui étaient intéressants, et du coup qui nous faisaient sortir du spectre de ce que j'appelle le jeu tactique, comme par exemple passer un beau moment.
Oui, tout à fait. Comment dire, en général, je ne vais pas dire que c'est toujours le cas, mais en général, normalement, autour d'une table, ça fait partie de l'objectif de tout le monde. Au niveau collectif, c'est passer un bon moment. Le MJ a aussi lui-même un objectif individuel à portée collective, qui va être, il va vouloir que tous les joueurs autour de la table soient impliqués et
Mais en
pas
fait,
seulement
toi,
passer un bon
tu vas utiliser ton intelligence de joueuse, ou de joueur,
moment. De joueuse, de joueuse.
pour que la table passe un bon moment. Donc, ça fait un petit peu tactico-social, quoi, en quelque sorte, quoi.
Exactement, mais de toute façon, c'est pour ça que je jouerai en tant qu'MJ, c'est que c'est pour offrir un moment où les gens, à la fin, au bout de la séance, ils se disent, ah, c'était chouette, à quand la prochaine?
Voilà. Tu avais aussi aller au-devant des dilemmes moraux. Si le jeu était identifié comme moral, c'était en tant que en tant avec ton talent de joueuse et aussi avec ton personnage, en sorte que les dilemmes moraux aient bien lieu, quoi.
Bah, tout à fait. En fait, c'est ils ont comment dire là-dessus. Le but, c'est que si ton but, disons, si t'as un jeu, je ne sais pas, dont le but est d'adresser les maltraitances infantiles, un sujet qui peut être moral, parce que tu peux te poser la question, bah, est-ce que je fais un enfant ou est-ce que je fais pas un enfant dans un monde qui peut être dur pour ces personnes-là. Ben, automatiquement, en fait, s'ils ont, je vais mettre en, je vais utiliser toutes mes compétences tactiques pour que le sujet soit bien amené et que mon personnage soit impliqué dans ces choses-là,
Voire tu vas
pour
le
pas qu'il soit
renforcer, par
tiré.
exemple, en disant que l'enfant de ton personnage, il est lui-même violent et que le frapper, c'est peut-être la seule façon de l'empêcher de faire du mal à ses petits camarades. Et du coup, tu vas augmenter le dilemme moral.
Ouais, je dirais que moi, mon approche, ce sera plutôt, je vais essayer de mettre beaucoup de traits de ma personne, moi, en tant que personne, pour me sentir d'autant plus impliqué et à partir de là, en fait, réagir avec un maximum d'empathie, d'implication et de ressenti au moment où les dilemmes émergent.
Ah super, là tu nous mets des grosses billes pour le podcast moral qu'on va faire tout à l'heure.
Et tu vois, hein, et comment dire, pour moi, c'est de la tactique dans le sens où, vu que mon objectif, c'est vraiment d'y aller à fond, bah, j'y vais à fond.
Ok. T'avais les objectifs valorisants contre les objectifs honteux.
Ah oui, alors là, ça, par contre, c'est exactement, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, c'est-à-dire que l'objectif valorisant, c'est typiquement l'objectif où on atteint un objectif explicite, battre le méchant, survivre, être le plus gros, être le meilleur guerrier. Et l'objectif honteux, ça peut être justement aussi être le plus gros guerrier, alors que ton voisin de table, c'est aussi un guerrier. Et donc, à partir de là, c'est battre mon voisin plutôt que être le plus gros guerrier.
Et sachant que c'est un
Là,
objectif, du coup, tu vas masquer, tu vas pas forcément le dire aux autres, quoi.
bah exactement, ça fait partie des objectifs qui, quand ils sont pas exprimés, peuvent mener à des comportements et des situations désagréables. Et
Est-ce
donc
qu'on
ça,
en...
dans le jeu tactique, en fait, il y a ce côté-là qui peut être embêtant.
Est-ce que tu veux bien qu'on embraye sur ton dernier point, qui était assez intéressant aussi, c'est les différents vecteurs d'optimisation?
Alors là, ouais, bon, ça c'est pour ceux qui sont pas encore morts à cette heure-ci. Je dirais que pour moi, en termes de vecteurs, en fait, une fois que tu as des objectifs, c'est comment tu les optimises. Alors, dès que c'est avec des règles, avec des formules assez claires, bah, tu peux faire une optimisation bêtement mathématique. Alors, si tu touches un peu du cosinus, tu vas pouvoir faire une formule fermée et directement calculer l'espérance de performance. Si c'est des choses un peu plus compliquées, tu pourras faire un modèle causal, faire une intégration stochastique à base de modèles de Monte Carlo, évaluer les trajectoires, et à partir de là, savoir quels sont les comportements à faire, et t'arrives avec tes ABAC pour que, en fonction des situations, tu prennes des décisions assez optimales à tout moment.
Ouais, et moi j'ai compris.
Alors moi j'ai rien compris,
Et
mais des fois ça peut être plus simple que ça, hein, l'optimisation
en fait, mais comment
mathématique.
dire, moi c'est ce que je fais, donc à partir de là, c'est pour ça, je parle comme je suis, je m'excuse auprès de tout le monde.
Non,
Après,
c'est intéressant.
le deuxième point, c'est quand c'est un peu moins facile, avec juste des formules, en fait, tu vas devoir raisonner par des approches de type économique, donc des fonctions d'utilité. Donc de savoir, entre guillemets, entre les différentes actions, laquelle marginalement optimise un objectif soit individuel, soit collectif, et à partir de là, tu vas chercher l'efficience plutôt que l'efficacité, et tu vas prendre les opti tu vas prendre les actions qui les choix qui
Avec
te
des
permettent
choses, ouais.
d'augmenter l'atteinte de l'objectif soit collectif soit individuel.
Avec des choses comme par exemple le dilemme du prisonnier en cas de dans des cadres de négociation.
Exactement, c'est tout ça, c'est des exemples qui ont été mis en place
Les
pour
équilibres de
contrôler
Pareto, des
moment
choses comme
où
ça, quoi.
notions de fonction d'utilité et d'efficience ont été posées. Alors là, si tu me lances là-dessus, je peux te parler 1 heure de plus.
Ah ouais, mais on n'a plus que quelques minutes.
Voilà, exactement. Après, autre point en termes d'optimisation, en fait, tu peux aussi optimiser tes compagnons autour de la table. Et à
Programmation
partir de là,
neurolinguistique,
ça
c'est
devient
ça, hein?
beaucoup plus personnel. Et donc, tu peux utiliser la programmation neurolinguistique, la manière dont tu te comportes, les mots que tu choisis, ce que tu dis avant, dans les mails avant la partie ou après la partie, comment tu récompenses, comment tu respires, comment tu fais plein de choses.
C'est de la manipulation, ça.
Ça peut être vu comme de la manipulation, j'en conviens tout à fait. Après, il reste que j'ai dit que je faisais l'optimisateur sans
Il n'y a pas
complexe.
de souci.
Donc, je suis sans complexe. C'est pas dit que dans la vraie vie je le sois, j'ai pas un peu de complexe quand même là-dessus. Mais il reste que, comment dire, il y a aussi cet aspect-là où tu peux avoir un comportement, par exemple, qui va encourager la bienveillance ou la solidarité,
Ouais.
ou alors un comportement qui va pousser les autres à la faute,
Je peux donner un
dépendamment de qui tu es.
exemple, Pierre, si tu veux, je peux donner un exemple que les joueurs, que les auditeurs vont pouvoir
Vas-y, tu avais un
lire.
bon exemple en tête là.
Ouais, sur les ateliers imaginaires, il y a un gars qui a expliqué comment il a géré sa campagne de Shaio. Shaio, c'est un jeu post-apo samouraï, pour faire simple. Et il utilise notamment la programmation neurolinguistique. Je pense qu'il utilise pas mal d'autres techniques, hein, mais moi, il explique ça très en détail. Je vais juste reprendre un point. C'est en fait, il veut que la campagne soit ambitieuse et que les joueuses soient très impliquées, et notamment dans les mails de préparation et dans les conversations de préparation avec les joueuses, il leur explique qu'il n'est pas sûr d'être à la hauteur en tant que MJ. Il sent, ça, ah, c'est un gros défi, je sens que je vais pas y arriver parce que vraiment j'ai mis la barre vraiment haut. Et en fait, il appelle ça une campagne de dénigrement personnel. Et du coup, les joueuses lui disent, mais non, mais si tu vas y arriver, en fait, elles se mettent en position de le réconforter, quoi. Et du coup, ça augmente leur investissement et leur croyance dans le fait que, effectivement, en tant que MJ, bah, leur en mettre plein les mirettes.
Moi, je veux juste intervenir sur un point. Il faut faire gaffe quand on parle de PNL parce que c'est quand même une grosse pseudo-science et beaucoup de bullshit à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je préférais évoquer le terme de manipulation. Voilà.
C'est bien d'évoquer, quoi. C'est bien d'évoquer que ça existe. Après, chacun fait ses courses, est-ce que tu utilises ou pas, quoi.
Voilà. Donc, pour continuer, après, un autre axe d'optimisation, ça peut être l'optimisation temporelle. Alors là, par exemple, il y a un truc qui est intéressant à regarder sur le site Place to Go, People to Be, version française en tout cas, il y a aussi la version anglaise. Dans la version française, il y a un article qui parlait d'enfoiré ou qui mentionnait l'histoire d'une campagne de Warhammer où un personnage avait plus d'attaques et sur plusieurs années de jeu, il a masqué ses attaques supplémentaires à ses potes autour de la table et il a été forcé de les révéler au bout d'un moment quand il était vraiment acculé dans les soucis, en sachant que ça faisait beaucoup, beaucoup de séances, qu'il avait beaucoup d'options tactiques et que les autres, n'ayant pas connaissance, l'aidaient alors qu'il n'en avait pas besoin.
Ah, ça doit faire un effet bœuf quand tu révèles
Donc,
ça.
ça, tu vois, ça, c'est le type d'optimisation temporelle qui est rigolote parce que ça fait un peu salaud. Mais en tout cas, en fait, dans le temps, il y a une certaine gestion de tes ressources que tu peux faire, de gestion d'information de ce que tu sais faire, de ce que tu peux pas faire, soit vis-à-vis de tes camarades joueurs, soit vis-à-vis du MJ où ton perso il en a sous le pied, mais tu le montres pas trop.
Asymétrie d'information, c'est vrai que moi souvent dans le DK système, des fois je me suis désarçonné par mes joueuses parce qu'à un moment elles me sortaient une option que leur personnage avait débloquée à un moment et que j'avais complètement oublié ce qu'elle n'avait pas du tout servi. Enfin, de temps en temps elles me sortaient des options et j'étais sur le cul, je me retrouvais débordé parce que elles me sortaient des capacités dont j'avais oublié l'existence, quoi.
Ouais, c'est bien l'idée en fait, c'est qu'à un moment il y a aussi le fait que toi tu as une connaissance assez normalement suffisante de ton personnage et de ce qu'il peut faire et qu'en face pas forcément. Et donc à partir de là tu peux aussi optimiser de ce point de vue-là en filtrant ce que tu fais afficher comme information.
Est-ce que vous avez un mot de la fin?
Fin?
Bah ouais, merci beaucoup parce que la discussion était passionnante et voilà, merci pour ce podcast, Thomas.
Ben, c'était un vrai plaisir et je suis content qu'on ait pu aborder tous les points. J'espère qu'on n'a pas été trop au galop pour la fin, même il y avait quand
Bah,
même pas mal.
c'est dommage, moi je me suis un peu retenu de balancer des trucs, mais je comprends l'impératif et
Je pense
j'aurai
que c'était
sans doute
peut-être un peu plus
l'occasion d'en
facile
reparler.
si on rebondissait les uns sur les autres, parce que comme Xavier, je pense que c'est très plaisant de discuter avec vous deux, en particulier sur ces sujets. Et c'est vrai qu'on aurait pu prolonger un certain temps.
Ouais, voilà. Mais on en
Le débat est
recreusera
ouvert dans les
peut-être.
commentaires, de toute
Voilà,
façon.
voilà, voilà.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc merci à tous et merci à Xavier d'avoir pris un petit peu les rênes de ce podcast. Donc il nous en reste un sur le jeu moral. J'espère que tous ces podcasts auront plu à nos auditeurs. Et évidemment, bah, je vous invite à réagir sur les commentaires, à nous envoyer des messages si vous avez besoin de précisions sur ce qui a été dit ce soir. Merci et au revoir à tous.
Merci à
Au
vous.
revoir.
Au revoir, bonne soirée.